Bon midi, la gang. J'espère que vous allez bien. On est tellement contents d'être en onde avec vous. Toujours un bonheur de faire l'émission dans Jazz avec Pascal CV, le caucus Iaccarini. Hey, ben on va avoir un gros invité ce midi. Midi et quart, manquez pas ça. Il appelle directement studio le chef du Parti québécois lui-même, Paul Saint-Pierre Plamondon. On va parler en premier lieu parce que vous le savez comment j'ai la jeunesse à cœur. J'ai travaillé énormément auprès des jeunes et hier, j'ai trouvé... Évidemment, ça passe sous le radar parce que Pablo Rodriguez prend l'actualité en entier avec l'UPAC puis Marois Risky et tout ça. Parti libéral du Québec. Mais le PQ a fait une conférence de presse hier sur la crise des opioïdes chez les jeunes. Donc, on commande de plus en plus des drogues par Internet. Ils se font livrer ça à la maison. Ils se dopent et ils meurent. Plus de 60 décès chez des jeunes de moins de 25 ans l'an passé. Donc, Paul Saint-Pierre Plamondon était accompagné de deux parents endeuillés justement hier en conférence de presse. Et je veux qu'on parle de ça parce que, oui, c'est bien beau la corruption, c'est bien beau la loi sur la laïcité, on va en parler encore aujourd'hui. On va encore parler de Magali Picard avec Gabriel Giguère. Mais je veux qu'on se concentre sur ce sujet-là, au moins un petit 3-4 minutes. Je trouve que c'est de très grand intérêt. Puis on a tellement de parents à l'écoute que je suis certain que ça va vous allumer. Puis après ça, ben c'est sûr qu'on va parler de la corruption, Parti libéral, puis Vincent Marissal, il s'en vient pas, tu sais. Puis on va lui dire, Magali Picard, es-tu allé trop loin? C'est clair qu'on va lui poser ces questions-là. Mais avant... Je veux qu'on parle de drogue chez les jeunes avec lui. Pascal CV, comment ça va?
Salut, ça va bien. Très content de recevoir le chef du Parti québécois parce que, écoute, on essaie de l'avoir depuis des semaines et des semaines.
Okay,
il n'est
oui.
pas facile à attraper. On pourrait lui poser la question aussi d'entrée de jeu. Pourquoi ça a été si difficile de savoir
en nombre?
Pourquoi nous parler aujourd'hui?
OK, on va profiter justement de l'expertise de notre collègue Antonine Iaccarini. Anto, ça se peut-tu que quand tu mènes dans les sondages depuis 3 ans, mais que là, tu avais perdu un petit 3%, puis là, tu sentais ça débalancer un peu, que les spécialistes des communications disent « OK, on va recentrer le message, puis on ne s'épivardera pas partout n'importe quand. »
Mais quand tu es premier, tu es plus prudent, généralement. Mettons que ce soit une élection, une course à la chefferie, dans des campagnes, en tout cas, tu es prudent quand tu es le premier, tu essaies de ne pas gaffer, tu essaies de ne pas glisser, puis... C'est glissant d'aller dans les médias quand même.
Mais
tu
mets
à risque, tu peux dire quelque chose qui va être tenu contre toi, etc. Mais je pense que l'explication, là, puis c'est mon hypothèse, vous la vérifierez avec le chef du PQ tantôt, ils sont pas nombreux et ils sont sur-sollicités.
Ça, c'est clair.
C'est une petite équipe. Il faut quand même se rappeler, en 2022, là, quand la CAQ a gagné, là, ils ont gagné 90 députés.
Ouais.
Le PQ avait 3 députés. Ils sont la 3e opposition là, à l'Assemblée nationale avec un budget en conséquence, petite équipe. Ils sont allés chercher un député après l'autre en élection partielle pour se rendre au nombre de 6. Mais ils fonctionnent avec peu de ressources et tout le monde veut savoir ce que Paul Saint-Pierre Plamondon pense de tout. Là.
Compte tenu qu'il est premier
oui.
en plus, tu as entièrement raison. On part le caucus là-dessus.
Le caucus. Le caucus. 102-1. Voici Antonine Iaccarini.
Petit move de tête de Pascal CV. Elle commence à s'habituer à cette thématique-là.
Moi, j'aime ça, le caucus, moment politique, je pense, fort apprécié, qui nous permet de s'asseoir. Hey, s'asseoir là, pour une chronique politique, c'est rare qu'on a le temps.
Oui, on a le temps. C'est ça qui est le fun.
C'est ça. Et là, ben, on va le séparer en deux aujourd'hui parce que Paul Saint-Pierre Plamondon va venir nous gaucher ça. Non, c'est pas vrai.
Arrête, je suis vraiment contente qu'il vienne.
Paul va nous appeler à midi et quart. Donc, on va faire un caucus séparé en deux parties. Et en tout, on commence avec Jean-François Roberge qui a confirmé sa loi sur la laïcité aujourd'hui. On écoute un extrait à l'Assemblée nationale.
Le projet de loi interdit la pratique religieuse dans un lieu sous l'autorité d'une institution ou d'un organisme assujetti à l'exigence de respecter les principes sur lesquels repose la laïcité de l'État, sous réserve de certaines exceptions. Le projet de loi étend l'interdiction du port de signes religieux prévu par la loi sur la laïcité de l'État aux membres du personnel d'un centre de la petite enfance, d'une garderie subventionnée et d'un bureau coordonnateur de la garde éducative en milieu familial. Cette interdiction s'applique aussi aux membres du personnel des établissements d'enseignement agréés aux fins de subvention et à certaines personnes qui fournissent des services, notamment pour le compte de tels établissements.
Donc, comme on le savait, on interdit le port de signes religieux, le visage voilé. On vient de confirmer ça en CPE, dans les établissements d'enseignement. On interdit d'avoir des locaux de prière dans les établissements d'enseignement. On en a parlé cette semaine dans Marceau le matin. Puis moi, je suis un laïc pur et dur. Moi, j'enlèverais la croix sur le Mont-Royal.
Là. Ah ouais, à ce point-là.
Ah oui, nous autres, on est une société laïque. Ciao, bye. De toute façon, il y a tellement eu de drames avec la religion catholique, d'enfants abusés, de drames autochtones avec les Premières Nations. Scratch-moi ça au plus sacrant, puis on repart ça à zéro.
Bon, là-dessus, je suis pas d'accord avec toi, pas parce que j'ai beaucoup de sympathie pour la religion catholique ou en fait n'importe quelle religion, mais parce que moi, je suis vraiment un amateur d'histoire et je pense aussi qu'on a un devoir de mémoire et c'est aussi une occasion de parler de tout ce que tu as nommé juste avant. Mm-hmm. Tu sais, quand je fais un parallèle avec autre chose, mais quand Maurice Duplessis est décédé, quelques années plus tard, on élève une statue quand un premier ministre décède.
Ouais.
Et les gens étaient tellement dégoûtés de la grande noirceur que pendant des années, la statue s'est retrouvée dans un hangar à quelque part, puis il n'y a personne qui voulait la mettre autour de l'Assemblée nationale. Puis c'est René Lévesque, à un moment donné, des années plus tard, qui a dit non, il faut se souvenir. Donc moi, je ne suis pas pour purger toutes les croix puis enlever tous les saints dans les noms de rue. Cela dit, je suis également une fervente de la laïcité et j'avoue être un peu sonnée par le projet de loi de la CAQ. Bien, écoute, quand on veut aller plus loin avec la laïcité, c'est un droit collectif. Hein. Ça entre un peu en opposition avec les droits individuels. Par exemple, si on se réfère à la Charte canadienne des droits, le droit de religion au Canada, c'est sacro-saint pour continuer dans la thématique
mais
religieuse.
On fera notre religion à la maison. Hey, moi, là, j'ai...
Et voilà.
Moi, j'ai traversé l'époque des patros. Où, ticu, on me disait, t'es obligé d'aller à la messe le dimanche,
eh oui.
Sinon tu joueras pas au tournoi de hockey. T'imagines-tu comment j'allais à la messe le dimanche? Fait que je suis hâte de réciter la messe par cœur. Mais en tant qu'employé du patron aussi, j'ai aussi travaillé à le rendre laïque.
Ben oui.
Puis à dire, OK, le crucifix qui est là, là, tu m'enlèves ça.
Mais c'est bien plus okay, inclusif pour les autres religions.
Ben oui, OK, là, le cadre ici que Jésus parle aux apôtres, scratch, tu m'enlèves ça. Parce que, justement, on était rendu dans un monde où on avait sûrement 25, 30, 35 de notre clientèle qui était d'autres religions, puis on ne voulait pas commencer à imposer notre religion.
Puis en même temps, on ne veut pas non plus que le vide qu'on crée en évacuant notre religion soit occupé par une autre religion.
C'est pour ça qu'on veut la laïcité.
Donc, on se met des balises. Et il faut quand même être conscient que ce droit collectif, que moi, auquel je tiens, qui est une valeur fondamentale au Québec et qui est différente de d'autres pays, d'autres juridictions dans le monde en passant, on est plus à la française, un peu moins à la britannique, à la canadienne, ça enlève des droits individuels à des gens, là. OK? Il faut en être conscient.
Ben oui.
Donc, à mes yeux, quand tu enlèves des droits à des gens, il faut que tu sois capable de faire la démonstration que, un, il y a un enjeu, une problématique à laquelle on vient répondre, et que le droit collectif, le jeu en vaut la chandelle pour enlever ces droits-là à certaines personnes. Je ne suis pas contre les mesures qu'il y a dans le projet de loi. Puis t'en as nommé quelques-unes en intro, prière dans les rues, les locaux de prière, signes religieux de la garderie jusqu'à l'université.
Oui.
C'est quand même pas rien, OK? Parce que là, on sort du cadre de la laïcité de l'État. Le ministre le justifie en disant qu'il y a un lien avec l'État, mais on est plus dans la laïcité de l'espace public.
Le lien par les subventions.
Oui.
C'est comme ça qu'il...
Écoute, je te nomme tout ce qui est subventionné dans notre société. Au Québec, c'est pas mal d'affaires. Donc,
je
dans
sais.
Le fond, on tombe dans la laïcité sociale, dans la laïcité de l'espace public. Les prières de rue, les gens vont être d'accord avec ça. Mais même ça, ça pose toutes sortes de problématiques.
Oui, mais Yannick Marceau me disait, « Ouais, prière de rue, c'est quoi quand ils font une prière devant Basilique Saint-Anne, il faut qu'ils rentrent en dedans? » Oui!
Eh oui.
Moi, dans ma laïcité, ils rentrent en dedans.
Ben, moi, je suis d'accord. Puis tu vis ta religion chez vous, puis arrête de l'imposer aux autres.
Exactement.
On est tous d'accord là-dessus. Par contre, si on regarde à la garderie, okay, on va dire à des femmes, puis c'est des femmes musulmanes, on va se le dire, là. Puis moi, je dis pas que c'est discriminatoire pour qu'on les vise personnellement.
Mm-hmm.
Moi, je pense que c'est leur religion qui leur impose tellement de choses que ça fait en sorte qu'elles
Exactement.
Sont plus affectées que les autres par des lois sur la laïcité. Moi, là, mon fils, ses éducatrices à l'école, il est plus à la garderie, elles portent des signes religieux, elles portent des hijabs. Elles ne sont pas enseignantes. C'est pas de l'enseignement qu'elles font. Elles s'occupent des enfants pendant les récréations, les collations, les lunchs. Elles supervisent les jeux à l'extérieur. Je m'en contrefiche qu'elles portent un signe religieux. Mon fils sait que c'est quoi un hijab. Puis tant qu'on tant qu'on me dit pas ah, ici les valeurs de l'islam sont ci et ça, puis qu'on n'enseigne pas la religion à mon enfant, ou que ça rentre pas en contradiction avec les valeurs fondamentales, égalité homme-femme, les droits des LGBTQ, je m'en fous. C'est pas un problème.
Je te comprends.
Je dois dire que j'ai une petite inquiétude quand même pour les perspectives d'emploi pour les femmes musulmanes quand même, parce que t'as une garderie, tu imposes pas ta religion à personne, les hommes peuvent rentrer chercher les enfants, il y en a pas d'enjeu. Et là, on leur dit, vous aurez plus ces emplois-là. Penses-tu vraiment qu'elles vont enlever leur signe religieux ou elles vont simplement arrêter
de travailler? Mais qu'est-ce qu'on va faire avec ces femmes-là?
On en rêve, hein? Mais ça marche pas
on
de même,
les
la vie.
On va les délivrer. Elles vont devenir des femmes libres.
Mais ça marche pas de même. Mais ça marche pas de même.
Ah, faut commencer en quelque part, Anto.
Non, ça marche pas comme ça. Puis moi, je pense qu'il va y avoir un backlash d'isolement de certaines parties de la population. Tu sais, faut garder l'objectif en tête. Si c'est plus d'inclusion, si c'est de faire en sorte qu'il y ait plus d'égalité homme-femme, moi, je pense qu'il faut doser. Je te dis pas que je suis contre à 100 %, mais je demande à être convaincue que les avantages dépassent les inconvénients. Ça, c'est mon petit bémol, c'est sur les garderies, que je pense que ça va être un peu compliqué.
Je le comprends, mais il y a des clauses grand-père, cela dit, d'inclus, donc qui peut bien faire. On va justement aller rejoindre immédiatement le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon. Monsieur Saint-Pierre Plamondon, comment allez-vous?
Ça va bien, vous?
Ça va super bien. Merci beaucoup pour votre temps ce midi. On apprécie grandement.
C'est
Monsieur Saint-Pierre Plamondon, je veux commencer avec quelque chose qui me tient à cœur, c'est-à-dire la consommation de drogue chez nos jeunes. J'ai travaillé longtemps avec une clientèle adolescente et hier, vous avez fait une conférence de presse concernant la crise sur les opioïdes. 638 décès l'an dernier au Québec. Beaucoup de jeunes qui sont décédés. Comment ça, ça arrive et qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent?
Oui, c'est beaucoup de jeunes. On parle de 72 jeunes de moins de 29 ans décédés. Le plus souvent, c'est une consommation de drogue qui finalement se trouve à pas être la drogue qu'on pense acheter, qu'on pense consommer. Et ça passe de plus en plus par des médias sociaux. Dans le cas des deux parents qui ont perdu un enfant, là, et c'est très triste, là, c'est le média social Telegram. Et donc, pour les parents, je disais, comme anecdote, tu sais, j'ai 48. Dans mon temps, les parents disaient, ben, tiens-toi pas aux arcades, puis tiens-toi pas avec des bombes. Le contrôle.
Fais attention à Ruelle, en arrière de chez nous, puis on était correct.
Va pas dans la gang à Ruelle. Aujourd'hui, la tâche des parents est presque impossible parce qu'essayer de savoir ce qui se passe sur le téléphone de vos enfants. Puis, j'ai plusieurs témoignages qu'essentiellement, aussitôt que tu ouvres un compte sur Telegram ou sur d'autres médias sociaux, il y a des vendeurs qui t'approchent en disant « As-tu déjà essayé telle drogue? » Et la manière de se le procurer est beaucoup plus donc rapide qu'elle l'a déjà été. Et c'est un phénomène qui va en grandissant, des drames les uns après les autres. Puis on parle de centaines de personnes au Québec qui meurent de cette manière-là à chaque année. Donc j'ai pris un certain nombre d'engagements. Là, ça m'a touché beaucoup. J'ai rencontré la mère du petit Nikan qui est mort, je l'ai rencontré en août dernier, en août 2024. Puis on s'est mis à préparer des solutions, là, c'est-à-dire, c'est comme n'importe quelle crise là, sociale, tu as besoin d'approche via les policiers, via la prévention, tu as besoin de budget en ce sens-là, tu as besoin aussi de connecter les CLSC avec les écoles, avec les intervenants, pour voir qu'est-ce qu'il y a d'efficace. Mais il va falloir aussi se pencher sur... qu'est-ce qu'on fait avec ces réseaux sociaux pour lesquels la police ne peut rien, a très peu de moyens pour contrôler ce qui se passe, mais essentiellement servent de plateforme pour des activités criminelles?
On n'est pas, Monsieur Saint-Pierre Plamondon, un peu en retard là-dedans, justement, tout parti confondu. Est-ce qu'on n'a pas vu venir tous les effets collatéraux de certaines technologies dans les dernières générations quant à la sécurité? Autant chez nos jeunes que chez nos moins jeunes, au niveau des fraudes, au niveau de la drogue, au niveau de tout ce que ça amène. On n'est pas en retard là-dedans. Est-ce qu'on n'a pas négligé un peu tout l'apport négatif et positif de ces technologies-là?
Totalement. Totalement. D'ailleurs, quand j'ai amené le temps d'écran chez les jeunes il y a 2 ans, sous l'angle de la santé mentale et physique des jeunes, le gouvernement de la CAQ riait de moi en chambre. Et ça a pris un certain nombre de mois pour que finalement le sujet soit repris par le gouvernement, que ça devienne une commission transpartisane. Et on est très en retard parce que les conséquences de ces technologies-là sur la santé des gens, ça se décline du côté de la criminalité et de la drogue. D'ailleurs, le groupe Arab Power s'est également ce qu'ils appellent ça du grooming, là, mais le recrutement très jeune passe de plus en plus en ligne, comme la vente de drogue dans ce cas-ci, comme toutes sortes de complexes ou de problèmes d'anxiété que les jeunes développent. Puis là, on n'a même pas parlé des adultes et de la chute de la santé de la population liée à ces technologies-là. Donc, on a complètement... on est plus qu'en retard. Et c'est un sujet délicat parce que ça touche en même temps la liberté des gens de faire ce qu'ils veulent de leur temps. Donc, chaque fois que j'ai abordé la question, par exemple, du temps d'écran des jeunes et des parents quand c'est le temps de souper à la maison, ça me vaut des centaines de messages, pas haineux, là, mais quand même fâchés de gens qui disent « ben tu vas me laisser faire ce que je veux à la maison, etc. » Donc, c'est des problèmes de santé publique, mais qui sont non seulement qui sont passés sous le radar, mais qui sont des fois difficiles aussi à aborder parce que ça s'est incrusté tellement rapidement dans nos habitudes de vie. Si on regarde comment on passait notre temps dans les années 90 et 2000, puis on regarde comment notre temps est utilisé aujourd'hui, c'est une révolution. Et elle s'est passée en l'espace de 10 ans seulement, donc ça s'est passé très vite.
Ah, ben ça a été très, très, très rapide. Pour terminer sur le sujet des drogues chez les adultes, je voudrais vous entendre sur les centres d'injection supervisés. Ça fait pas l'unanimité dans la population. Il y a plusieurs personnes qui se disent « Hey, on fait juste permettre aux jeunes de se droguer davantage. » Moi, je suis pour parce que je vois qu'il y a un accompagnement qui est fait, puis c'est un moyen, justement, d'avoir un premier contact avec ces gens-là. Vous en pensez quoi, vous?
Ben, j'en pense que, d'une part, faut distinguer la sécurité de la population avec la réduction des méfaits. Là. C'est-à-dire que, évidemment qu'on veut pas qu'un centre d'injection soit à côté d'une école ou à côté d'un lieu où est-ce que la population n'est pas en sécurité. Donc ça, c'est parfaitement légitime. Là, puis il y a une réflexion à avoir là-dessus. Ensuite, ce qu'on propose, nous, c'est de vraiment revenir à une approche médicale de la crise des opioïdes, c'est-à-dire ne pas se contenter de la réduction des méfaits des centres d'injection, mais sortir les gens par tous les moyens de la toxicomanie. Ça fonctionne pas tout le temps, mais vraiment avoir une approche médicale de vouloir sortir le patient de cette habitude mortelle ou très dangereuse pour la santé. Pour autant, il y a une réalité qui fait en sorte que de couper complètement les pratiques qui visent à encadrer le mieux possible ce qui existe déjà. On ne peut pas couper non plus complètement les centres d'injection comme si le problème n'a pas lieu, parce que si on fait ça, ben tu as des personnes qui sont encore plus à risque et tu as des problèmes sociaux qui vont devenir encore plus grands. Donc, c'est comme quand on me demande est-ce que ça prend plus une approche policière ou une approche de prévention pour la prise de drogue. Le plus souvent, tu as besoin de tous les leviers en même temps. Et c'est plus ici un problème de question de volonté politique et de budget qu'un problème de débat là, entre une approche médicale ou une approche de réduction des méfaits.
Monsieur Saint-Pierre Plamondon, je change un peu de sujet pour parler de Vincent Marissal parce que, évidemment, ça a été une des grosses nouvelles, un des gros rebondissements des derniers jours. J'ai souvenir de déclarations de votre député Pascal Bérubé là, qui disait qu'il n'y aurait pas de transfuge caquiste, pas d'ancien caquiste qui serait parmi vos candidats à la prochaine élection. Mais vous êtes correct avec des transfuges solidaires. Pouvez-vous nous expliquer un peu votre vision par rapport à tout ça?
Bien, premièrement, Vincent Marissal n'est pas un transfuge. Il a décidé de siéger comme indépendant. Il est le sixième ou le septième à le faire, là, dépendamment de ce qui va arriver avec la situation de Marois Risky. Mais il n'y a pas de problème éthique à prendre la décision de ne plus défendre les idées de ton parti parce que tu es profondément en désaccord. Ce qu'il a nommé, c'est la politique très négative de Québec solidaire, la crise des transports collectifs, où est-ce que Québec solidaire prenait strictement pour les syndiqués, mais pas pour une population qui était plus capable d'aller travailler dans son comté de Rosemont à Montréal. Il a parlé de l'affaire Boisy puis de plein d'autres raisons. Donc, il a parfaitement le droit de faire cette démarche-là et se pose après la question plutôt de est-ce que, parce que lui, ce qu'il m'a indiqué, c'est qu'il se trouvait jeune pour prendre sa retraite, puis il ouvrait la porte à continuer, puis les discussions se sont pas rendues très loin, pas dans le détail de chaque dimension du programme du Parti québécois qui, convenons-en, est pas le programme de Québec solidaire du tout, là. Donc, ça, c'est une autre question.
Mais vous avez de l'ouverture. Est-ce que vous avez la même ouverture, par exemple, pour une Maïté Blanchette Vézina qui, elle aussi, a décidé de quitter son parti et de critiquer son ancien parti?
Il y a plusieurs caquistes qui ont demandé à me parler pour voir si la porte était ouverte ou il y avait une possibilité de transférer au Parti québécois et je n'ai jamais pris l'appel parce que j'ai déterminé, il y a 2 ans maintenant de ça, que je ne voyais pas d'intérêt de rebâtir le Parti québécois à même le gouvernement de la CAQ. Dans le cas de d'autres personnes qui pourraient venir, des conservateurs, des libéraux et de Québec solidaire, je pense qu'il faut que ce soit soumis à la population. C'est-à-dire qu'il faut que la population ait consenti puis puisse voter sur ce transfert-là. Donc, il n'y aura pas de transfuge. Là. Pour reprendre votre question, il n'y aura pas personne qui va... c'est pas un transfert ici. Se pose la question ensuite, qui se présentera pour le Parti québécois en 2026? Puis on a des règlements. Puis je vous cacherai pas qu'objectivement, puis vous pouvez aimer ou ne pas aimer Québec solidaire, j'ai été souvent à couteau tiré avec cette formation-là, mais en termes de qualité du travail, Vincent Marissal fait du très bon travail, tant comme parlementaire que comme député. Et là, ensuite, il n'y a pas de décision de prise en ce sens-là. Les prochaines élections générales sont dans 10 mois.
Vous êtes un politicien extrêmement intelligent. Votre parti est en avance. Vous avez un bel avantage actuellement au provincial. Puis en plus, bien, ça grouille négativement autour de vous. Vous allez devoir recruter assurément pour les prochaines élections. Ma collègue Antonine vous a demandé si M. Marissal était une bonne idée. On sent qu'il n'y a pas une fermeture par rapport à n'importe quel autre parti que de la CAQ quand aller chercher des candidats. Mais avez-vous vraiment besoin d'aller piger dans d'autres partis politiques quand vous êtes autant en avance puis vous pensez peut-être, comme nous on pense, que le Parti québécois est comme une vague actuellement. Peu importe qui on mettra sur les pancartes, il y a quand même une crédibilité ou encore un engouement face à votre parti.
C'est une bonne question. Voici le dilemme que j'ai. Si je me retrouve avec une trentaine de ministres, prenons l'hypothèse d'un gouvernement majoritaire du Parti québécois dans 1 an, si sur une trentaine de ministres, il y a 24 ministres qui n'ont jamais mis les pieds dans l'Assemblée nationale de leur vie, vous comprenez qu'il y a un défi important au niveau de chacun des dossiers, là, parce qu'on associe évidemment beaucoup le Parti québécois à l'indépendance du Québec, mais un mandat, vous le savez, c'est de gérer plusieurs ministères dans le cadre duquel la manière dont la CAQ s'est comportée, puis là où on en est en santé, en éducation, puis dans plein d'autres domaines, là, les tuyaux coulent à plusieurs endroits, donc le défi va être gigantesque. Donc, j'ai cette réflexion-là souvent, à savoir combien de candidats de 2022 on ramène en 2026 pour qu'il y ait de la continuité puis de la cohérence dans ce qu'on fait. Combien d'anciens, parce qu'il y a des bloquistes et d'anciens péquistes qui lèvent la main, mais combien d'anciens on va chercher, sachant quand même qu'on est un parti québécois qui a beaucoup évolué par rapport au passé. Il y en a qui nous appellent le PQ 3.0, là, mais on est une autre génération. Mais en même temps, on veut de l'expérience. Combien de gens avec justement de la formation puis une compréhension de c'est quoi le travail à l'Assemblée nationale. Je vous dis pas que j'ai une réponse, mais je vous dis que ça occupe mes soirées quand que je réfléchis à ce qu'on essaie de bâtir. Mon but étant d'avoir la meilleure offre politique pour les Québécois possible dans une époque où, convenons-en, ça roule carré. Donc, j'ai pas pris de décision, mais autant j'ai fermé la porte dans certains cas, il y en a d'autres. Je laisse ça à une discussion, notamment au sein de mes militants, parce que n'oubliez pas qu'en plus, le Parti québécois, il y a des investitures, il y a des règlements sur la parité homme-femme, puis il y a des membres qui décident. Donc, mettez ça dans un mix, là, puis c'est quand même un exercice exigeant, mais je suis pas mal convaincu qu'à la fin, on va arriver avec la meilleure offre politique possible. Et c'est là-dessus que les gens vont nous évaluer dans une dizaine de mois.
Par texto, on vous recommande de faire appel à ChatGPT, mais c'est une bonne blague que je trouvais. Monsieur Saint-Pierre Plamondon, 2 petits vrais ou faux rapides. Vrai ou faux, le Parti libéral du Québec est un parti corrompu?
Vrai, dans le sens où ça ne veut pas dire que tout le monde qui est au Parti libéral du Québec est corrompu. Mais est-ce qu'il y a une culture constante de corruption? La réponse, c'est oui, puis ça s'explique. C'est un parti dont la loyauté est d'abord envers le régime canadien puis l'unité canadienne, quitte à travailler contre les intérêts des Québécoises et des Québécois. Mais à la base, on peut pas se surprendre. Après, là, je regardais un vieil épisode de la série sur Duplessis, où Maurice Duplessis lui-même dit que la faiblesse des libéraux, c'est la corruption puis leur caisse électorale. T'sais, ça date de il y a... C'est vieux comme pattern.
Ouais, j'allais dire vieux comme le monde. Là.
Ben, c'est ça, j'allais dire c'est vieux comme le monde. Mais donc, oui, il y a cette culture-là. Puis à l'évidence, il n'y a pas eu de ménage. Puis il n'y a pas grand-chose qui a changé. Parce que si vous regardez attentivement, il n'est pas question de Pablo Rodriguez lui-même. Il est question de tout un entourage puis toute une machine dans le parti qui est sous enquête. On va attendre que l'enquête aboutisse, mais il y a quand même du matériel assez sérieux pour que l'UPAC rencontre des gens puis se pose des questions. Rien de neuf sous le soleil.
Ouais. Non, en effet, je suis entièrement d'accord avec vous. Vrai ou faux, on s'est fait voler le référendum de 1995 par l'immigration massive commandée par Jean Chrétien?
Ben, c'est pas que l'immigration, c'est en fait des gens qui n'avaient pas le droit de vote, qui ont voté, et donc ils pouvaient venir tout simplement des autres provinces. On a triché puis on a volé le référendum également sur la base de financement illégal, c'est-à-dire que le camp du oui avait moins de budget de publicité puis d'opérations que le camp du non, qui faisait plusieurs de ses opérations en passant à partir de Toronto. Donc l'histoire du Québec, c'est l'histoire d'un peuple qui veut juste être normal, puis avoir son propre pays, puis son fonctionnement comme n'importe quel autre peuple, mais qui est pris sous une domination coloniale. Puis si vous vous intéressez à comment fonctionne une colonie, qu'elle soit britannique, française ou espagnole, ça implique la tricherie, de la répression, puis de la corruption, parce que c'est la seule façon qu'un peuple peut continuer à dominer un autre peuple.
Ce matin, c'était le dépôt du projet de loi qui va élargir la laïcité par le ministre Jean-François Roberge. Pour le bénéfice de nos auditeurs, c'est quoi la différence de position entre la proposition sur l'élargissement de la laïcité du PQ et celle de la CAQ ce matin? Il y a sûrement des choses avec lesquelles vous êtes d'accord, d'autres moins, ouais. Grosso modo, là.
Ben, c'est sûr que tout ce qui est renforcement de la laïcité, là, préparez-vous à ce que le Parti québécois soit d'accord. Ce qui est particulier, c'est que là, la CAQ lance ce projet de loi-là. J'ai pas entendu beaucoup de consultations ou de réflexions préalables. Et ça ne suit pas la seule exercice que la CAQ avait fait, c'est-à-dire qu'il y a un rapport qui a été commandé par la CAQ. Ce rapport-là, qui est le rapport Rousseau, dit d'autres choses que ce que la loi prévoit. Donc, on a décidé d'aller plus loin que le rapport.
Il y a un peu de politique là-dedans. Le contexte politique probablement influence le poussage de crayon là, sur
bon,
ce projet
donc,
de loi.
Là-dedans, il y a des choses que le Parti québécois a mis de l'avant. Nous autres, on a fait un référendum interne auprès de nos membres, puis on a convenu qu'on voulait encadrer et limiter les prières de rue là, avec des critères très, très sévères, parce qu'on ne veut pas l'envahissement du religieux dans l'espace public. On a convenu de l'interdiction des prières. C'est ce que la CAQ décide de faire dans son... l'interdiction des prières, pardon, dans les écoles, c'est ce que la CAQ décide de faire dans son projet de loi. Il y a des différences. Nous, ce qu'on prône, c'est que les signes religieux ostensibles, puis je sais que c'est un mot là qui a peut-être un peu d'ambiguïté, là, mais ostensible, ça ne veut pas dire ostentatoire, ça veut dire on peut avoir, supposons, une croix ou un signe dans... comme collier, puis le mettre sous son chandail, puis c'est pas un problème. Ostensible, c'est vraiment qui détermine l'apparence physique, qui est vraiment omniprésent. Nous, on veut interdire les signes religieux ostensibles chez tous les élèves, à tous les stades du cursus scolaire, parce que ça c'est pas une bonne manière d'intégrer et de laisser les enfants être des enfants que de définir des enfants par la religion. Et c'est également un signe de zèle religieux qui soulève des questions de la protection de l'enfance de notre point de vue. La CAQ n'est pas allée là. Elle s'est contentée de dire qu'il fallait que les visages soient à découvert. Donc, ça veut dire que dans le projet de loi, on prévoit que le voile intégral chez un élève est interdit, mais on laisse aller quand même les signes religieux pour les élèves là, du primaire et du secondaire. Donc, il y a quelques différences, mais somme toute, je pense que l'interdiction du religieux, ou en tout cas des balises sur le religieux dans une société, nous donne plus de chances d'être dans une paix sociale que si on se dirige vers le religieux qui définit les autres et notre société de plus en plus. Ça va créer des tensions parce que c'est pas tout le monde qui a les mêmes opinions, tant sur la religion que sur la place que le religieux devrait occuper, donc se garder une petite gêne, puis garder la religion pour son temple et pour ses activités dans un domaine plus privé, c'est fort probablement plus de paix sociale que de mettre du religieux partout Le zèle religieux ne mène pas nécessairement à la paix sociale, de mon point de vue.
On vous a rarement en entrevue ces jours-ci, M. Saint-Pierre Plamondon. Pour ça qu'on fait réagir sur les enjeux chauds actuellement de l'actualité. Par contre, c'est plaisant de vous avoir plus souvent en onde pour parler aussi de ce qui s'en vient. Avec tout ce qui se passe au provincial, au fédéral, il y a beaucoup d'orphelins politiques. Vous avez des positions qui sont claires. Vous avez toujours dit, et même ce, avant les élections, que le référendum, pour vous, c'est un oui. Vous avez encore ces idées-là derrière la tête. Mais le Québec s'en vient bric-à-brac. Le système de santé est en décrépitude au niveau de l'éducation. C'est la même chose. Nos écoles sont en piètre état. Il y a des gros jalons comme ça à aller colmater des brèches, oui, mais essayer de réparer. Êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt, si jamais on décide de vous élire aux prochaines élections?
Si on est prêt?
Oui.
Bien, dans le sens, c'était le slogan de Jean Charest. Nous sommes prêts. Puis c'est donc, si un politicien vous dit qu'il est prêt, faut pas nécessairement le croire. Je vous dirais qu'on ménage aucun effort, puis on a du temps de préparation. C'est-à-dire que si vous regardez nos politiques publiques, puis on s'en va où? Tout va être très clair à tout le moins durant la campagne. Donc, les gens vont voir qu'on s'est préparé. Puis, comme je vous disais un peu plus tôt dans l'entrevue, bien, je mets beaucoup de temps sur les candidatures, réfléchir à quelle architecture nous donne la meilleure équipe possible. Mais je ne vous cacherai pas que c'est pas l'époque la plus simple sur le plan du nombre de problèmes à solutionner. Puis, sur le fait que nos urgences, que la santé, l'éducation, les routes, ça va pas nécessairement bien au Québec. On en est conscient, puis je vous dis là-dessus que c'était la prétention de Philippe Couillard du Parti libéral de s'occuper des vraies affaires, c'est-à-dire de laisser de côté notre relation avec le fédéral, juste s'occuper des vraies affaires, puis on sait que ça a pas freiné le déclin sur ces sujets-là. Même chose François Legault, il a pris le pouvoir en disant changement, mais il n'y aura pas de changement sur ces questions-là. Je vais régler des problèmes. Vous allez voir, vous allez avoir un temps d'attente minimal à l'urgence, un médecin de famille pour tout le monde, toutes sortes de promesses, puis il n'y a rien qui était vrai. Puis on a continué à décliner. Ce que je vous dis là-dessus, c'est que c'est sûr que si on envoie la moitié de nos impôts à Ottawa et qu'Ottawa gaspille ces impôts-là, dédouble ce qu'on fait déjà, puis part sur toutes sortes de chires idéologiques, pendant qu'on n'est pas capable de financer notre santé puis notre éducation correctement, notamment François Legault avait promis qu'il rapatrierait 6 milliards de transferts en santé par année grâce à son mandat fort. Il a obtenu 1 milliard sur 6. Donc, évidemment que si on avait 5 milliards de plus dans le système de santé, il irait mieux. Je vous dis pas qu'il serait parfait, mais il irait mieux. Donc, faut faire le lien avec ces deux derniers mandats, là, libéral et caquiste. Essayer de s'arranger avec la moitié de nos impôts pendant que l'autre moitié travaille contre nous autres ou est gaspillée a rendu la vie très difficile à la CAQ et aux libéraux. Puis c'est pour ça qu'on s'occupe simultanément de solutions pour les Québécois à court terme et de rapatrier l'argent qu'on envoie à Ottawa pour être un pays normal qui dépense en fonction de nos priorités, non pas ce que Ottawa a dicté comme prochaine dérive idéologique.
Monsieur Saint-Pierre Plamondon, on vous remercie infiniment pour votre temps ce midi. On apprécie grandement. Au plaisir de vous voir en studio prochainement. Et je termine en vous disant que j'étais très heureux d'entendre votre député Alex Boissonneau là, décrier le comportement de Magali Picard là, en commission parlementaire là, face au ministre Jean Boulay. J'ai trouvé ça très intelligent de la part du PQ.
Je le salue de votre part.
Excellent. Merci beaucoup.
Au plaisir.
Au revoir. Passez une belle journée. C'était Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois. Vous pensez quoi de l'entrevue, mesdames?
Bien, d'abord, tu sais, c'est quand même intéressant de voir que le PQ apporte des sujets différents
oui.
aussi. OK? Donc, on est dans l'air du temps, on est nationaliste, blablabla, très bien. Mais il y a aussi des enjeux qui sont un peu différents, où le PQ, on ne l'attend pas nécessairement. Puis c'est vrai que le chef du PQ a rappelé la question du temps d'écran. C'est le PQ qui a été le premier à pousser ce sujet-là. Ils sont assez forts aussi sur la sécurité. On parle de gangs de rue, notamment, et c'est devenu une priorité de la CAQ cet automne. Mais ça faisait quand même un bout de temps que le PQ poussait sur ce sujet-là. Toujours un défi quand même pour le chef du PQ. Puis Pascal, tu posais la question, allez-vous être prêt? Ça, avec une petite équipe comme ça, de montrer vraiment une équipe gouvernementale. J'ai été surprise de l'entendre nous dire « Ah, tu sais, parce que moi, je ne peux pas arriver juste avec des nouveaux députés qui n'ont jamais été à l'Assemblée nationale. »
Mais c'est intéressant, c'est lucide. Moi, ce que ouais. j'aime du discours de Paul Saint-Pierre Plamondon, puis au-delà du fait que, bon, il a peut-être pété 2-3 coches de trop avec des chroniqueurs, ouais, ouais. Là, c'est que c'est lucide. Et c'est puis c'est...
On n'a pas l'impression qu'il nous mène en bateau, en
non.
fait. Il était honnête que ma réflexion est en cours. Mm-hmm. Parce que, tu sais, dire ma réflexion est en cours en politique, c'est pas toujours mm-hmm. pratique, là. Tu sais, dans le sens que, t'es indécis, puis là, tu changes d'idée, etc. Mais cette authenticité-là, j'ai l'impression qu'elle est payante pour lui.
Puis depuis le début, on remarque ouais. qu'au moment où il a commencé à implanter cette transparence-là, c'est quand au tout début, là, lors des dernières élections et tout ça, on posait la question sur le référendum. Puis tout de suite, il disait oui.
Oui, puis c'est
souvent,
structuré
il aurait pu revenir
aussi.
Après être élu, puis dire, on a repensé mm-hmm. à ça, on veut, oui. Non, non, il dit, nous, c'est ça notre plan.
Ouais. C'est ça.
Puis si vous votez pour nous, ben vous n'allez pas pouvoir dire qu'on arrive avec cette nouvelle-là. C'est
en
encore
effet.
Dans l'air ouais. du temps pour nous. C'est encore. Puis on le saluait en nombre de ça. Que tu sois en accord avec lui ou pas, que tu souhaites voter pour lui ou pas, on demande cette transparence-là en ce moment en politique, puis on en a très peu. Et ça, je pense qu'on peut lui laisser.
Absolument, clairement. C'est un point fort. Je dirais que leur niveau d'ouverture... Selon les indépendants, ils arrivent de quel parti? C'est un peu plus compliqué. J'aurais une réponse à les suggérer. QS, c'est un parti souverainiste. On peut trouver qu'ils ne sont pas assez souverainistes.
Ouais, ouais.
Mais la CAQ, ça demeure un parti qui est pour que le Québec reste dans la fédération. Mm-hmm. Il me semble qu'il aurait pu me répondre tout simplement.
Ça aurait été assez facile, en effet. Parlant de transparence, parlant de franc-parler, parlant de quelqu'un qui est honnête, parlant de quelqu'un qui sait tout ce qui se passe dans son parti. Après la pause, Antonine, on parle de Pablo Rodriguez. Ça te va?
Oui, oui.
C'est une belle introduction à Pablo, Pascal. Qu'est-ce que t'en penses?
Quasiment trop.
Restez les nôtres, vous êtes à Boulevard 102 à l'émission d'En Jase.
Je préviens, on jase.
OK, oui, on jase le midi. À Boulevard 101, c'est votre émission du midi. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'entrevue avec Paul Saint-Pierre Plamondon? 418-971-1021. Les gens le trouvent très pragmatique jusqu'à présent. Trouvent que c'est un excellent homme politique. Évidemment, il y en a qui sont rebutés par le référendum et la future séparation, donc ne voteront pas pour lui. Mais les commentaires sont très positifs. Alors allez-y, 418-971-1021. Même si vous êtes négatif envers PSPP, là, on va vous lire.
Ben oui,
vous avez
oui.
le droit.
Vous avez le droit, certain.
Mais hein, c'est pas tout le monde va voter pour le PQ quand même.
On va surtout vous lire parce que c'est ça qu'on veut, une pluralité en fait d'opinion par rapport à tous les partis, tous les chefs.
T'as tellement raison. Alors 418-971-1021, on adore quand vous participez. Avant la pause, j'ai dit on va parler de cet homme qui est toujours droit et qui connaît la vérité, Pablo Rodriguez. On l'écoute ce matin en scrum avec les journalistes.
C'est que on n'a aucune idée. Vous comprenez ce que je veux dire par là? C'est que là, Mme Risky a été parlée à l'UPAC. Parfait. Je vois aucun lien avec Mme Hintz dans tout ça.
Paul Saint-Pierre Plamondon, encore ce matin, parlait de culture de corruption au Parti libéral du Québec. Est-ce que vous êtes tanné d'entendre ça? Comment vous répondez à ça?
Mais c'est les Québécois qui vont répondre à ça.
Bon, entre deux choses là-dedans. La première, là, l'UPAC, congédiement de Geneviève Hintz, ça n'a pas rapport. Ça se peut que ça ait rapport.
Ben oui, ça se peut. Là, on le sait pas. Qu'ils nous disent pas, ça n'a pas rapport.
Mais non.
Ils n'arrêtent pas de nous dire qu'ils le sait pas.
Ça se peut que Marois Risky, elle ait fait un petit peu d'enquête, qu'elle ait dit, coudonc, Geneviève Hintz, ça vient de tremper dans le financement illégal. Ça se peut, c'est une hypothèse, mais ça se peut.
On peut avoir plein de théories, tu sais. De dire, par exemple, que le 14 novembre dernier, quand Faisal El-Khoury, le député fédéral qui a été nommé dans les échanges textos, est allé voir Marois Risky pour lui parler. On ne sait pas exactement ce qui s'est dit, mais peut-être qu'il a demandé quelque chose en échange mm-hmm. de ses loyaux services pendant la campagne à Pablo.
Mais
je
ne
le sais pas, moi. Je pose des questions. Puis peut-être que Marois Risky, elle en a parlé avec sa directrice de cabinet et qu'elle ne s'entendait pas sur les mesures à prendre.
C'est ça, parce que peut-être que Geneviève a dit « Ben oui, c'est vrai, on pourrait y faire un petit retour
peut-être,
d'ascenseur. »
Peut-être, mais on le sait pas, parce qu'on spécule. Parce que Marois Risky nous a toujours pas vraiment expliqué les raisons.
Ouais.
Autre option, c'est que ça n'a pas vraiment de lien, mais ça flottait dans les airs. Marois Risky ne voulait pas être mêlée à tout ça et elle a décidé mm-hmm. de se dégager violemment du Parti libéral en posant un geste d'éclat. Mais entre vous et moi, peu importe ce qui s'est passé exactement, je vois pas comment, avec tout ce qui flottait dans les airs, là, tout ce qu'on a appris sur les budgets, sur les textos, les brownies, comment mettre la directrice de cabinet dehors, ça devait être le premier geste posé. Peu importe ce qu'on pense de Pablo et de son talent de communicateur en scrum, ou peu importe, ou sa gestion de la crise, la chose à faire aurait été de s'asseoir avec son chef et de trouver des solutions. Moi, par exemple, le déclenchement d'une enquête interne...
Sauf si elle a la preuve que Pablo trempe là-dedans.
Ah, ben là, c'est ça. Puis là, on peut encore spéculer. Mais dans les faits, l'enquête qui a été déclenchée au Parti libéral ou les informations qui ont été transmises à l'UPAC ou peu importe, c'est des gestes qui auraient dû être posés avant, pas en réaction à ce qui sort dans mm-hmm. le journal. Puis à ce titre-là, le Parti libéral est fautif, peu importe ce qui va se passer. Parce que quand tu as des textos... Moi, je suis à la tête d'un parti politique demain matin, puis je je me rends compte qu'il y a des gens qui ont trempé dans ma campagne électorale de chefferie à moi. Et que, ou alors, je suis directrice de cabinet de cette personne-là, puis on m'informe de ça, ou je suis chef parlementaire. Hé, hey, tabarouette, il n'y en aura pas de niaisage, là. Avant que ça sorte dans le journal, je vais m'arranger pour faire le ménage puis pour dire on est devant une situation. Et voici les gestes qu'on a décidé de poser pour faire le ménage.
Parce que là, mais ça là, se gâte attend... à l'Assemblée nationale. Les partis d'opposition brandissent les anciens livres sur corruption, PLQ, Inc.
Les vieux fantômes qui viennent hanter le Parti libéral. Et là, hier, on apprenait que l'UPAC est rendu dans le dossier, l'unité permanente anti-corruption. Il n'y a pas d'enquête de déclencher. Mais on a rencontré un témoin, donc on comprend que c'est Marois Risky. Mm-hmm. C'est peut-être à son initiative. En tout cas, c'est ce que Pablo Rodriguez nous a lancé un peu dans le corridor. Mais imaginez à quel point c'est impossible que cette crise-là s'essouffle prochainement. UPAC, directeur général des élections, enquête interne, Marois Risky qui n'a toujours pas parlé, une poursuite qui est en cours. Je veux dire, le nombre de rebondissements possibles est à l'infini et le talent de Pablo Rodriguez pour avoir l'air en contrôle est absent.
Absent, en effet.
Inexistant.
Avant qu'on passe à notre ami Gabriel Giguère de l'Institut économique de Montréal qui passe en commission parlementaire pour le projet de loi 3 concernant la façon de faire au niveau syndical, les cotisations facultatives, Pablo Rodriguez, lui, en pleine crise, il a trouvé la bonne place pour aller ce matin. Il est allé au congrès de la FTQ.
Ben oui.
Et il a parlé aux amis syndicaux. Écoutez cela.
Et c'est là qu'on va voir, ce qu'on sait déjà, je vais conclure bientôt là-dessus, l'importance du mouvement syndical, parce que dans chaque révolution industrielle, c'est vous qui avez été des gardiens de l'équité, de la justice sociale, du progrès social. Et ça, ça va continuer avec vous autres.
Avec vous autres, la FTQ, la même FTQ qui hier, ou avant-hier, là, parce qu'on en a parlé hier, c'était avant-hier, a traité Jean Boulay d'innocent. Mais c'est avec vous autres que ça va passer. Ça doit bien aller dans les sondages, Pablo, avec la population québécoise.
On dirait qu'il veut encore plus perdre de points.
Ouais.
Sondage Palace Data hier, justement, mm-hmm. qui
Attends, Pablo, les gens doivent avoir une opinion favorable de lui à quoi? 70-75%?
Ben, t'es un nouveau chef qui vient d'arriver.
Ben, c'est ça. Puis là, t'arrives avec des
la
nouvelles
lune de miel.
Idées. La lune de miel. T'es Pablo Rodriguez, l'ancien ministre du Transport, quand même,
t'as de
nouveau
l'expérience,
canadien.
Hein,
t'as traversé
ministre.
Le pont.
T'as traversé
t'as
le
marché
pont. T'aurais
ta famille.
Pu être ministre fédéral, toi, là.
Ben oui, c'est ça. Quand t'as traversé le pont, le feu t'as pas pogné chez les libéraux canadiens, puis tu pensais pas perdre ta job.
Penses-tu qu'il regrette?
C'est clair. Et alors, les autres ont une lune de miel avec Carney qui en finit plus, puis Pierre Poilievre finit plus de se planter.
Puis lui, il est dans une maison en feu, ça va, c'est bien. Écoute, très mauvaise nouvelle pour Pablo Rodriguez dans ce sondage Palace Data, malheureusement,
ben
pour lui. Donc, si on regarde l'opinion favorable ou défavorable face aux différents chefs de parti, Pablo Rodriguez, 13% seulement des gens ont une opinion favorable. On a 27% de neutres et 56% défavorables. 56%, c'est pratiquement à égalité avec Éric Duhaime, qu'on considère comme étant un personnage quand même mm-hmm. assez polarisant. Legault, c'est la même chose. 13% de favorables. Donc là, tu es à égalité avec le gars qu'en ce moment, tout le monde n'est plus capable d'y voir la face.
Avec le gars qui est usé par le pouvoir.
7 ans au pouvoir.
Toi, tu viens d'arriver en juin.
Je veux dire, tu sais, tu vois ça ce matin, t'es militant libéral, tu dis on a un tabarouette
ouais,
de problème.
Ouais, c'est ça, tu dis, OK, comment qu'on trouve dans la constitution du parti un règlement qui fait en sorte qu'on lui dit « Salut! »
Bye!
Bye-bye!
On prend le deuxième, celui qui est arrivé deuxième dans la course à la direction Charles Millard. Écoute, c'est terrible comme situation. Et en fait, il est moins populaire que son parti. Il tire son parti vers le bas
vers le
parce
bon.
Que le PLQ est à 25% en ce moment dans les sondages, qui n'est pas extraordinaire. Chez les francophones, ça demeure difficile.
Ouais.
Si on regarde les intentions de vote générales, le PQ continue de trôner à 36%, PLQ à 25%. Parti conservateur, 15%. Quand on regarde les projections dans les différents comtés, ça regarde bien quand même pour faire une belle entrée à
Région
l'Assemblée
nationale.
Région de Québec,
Chaudière-Appalaches.
Absolument. La CAQ toujours à 13%, QS qui ferme la marche à 9%.
Mm-hmm.
Donc, avec toute cette crise-là, tout ce qu'on s'est dit tantôt, rajoute par-dessus le marché un sondage qui démontre que le chef du Parti libéral tire son parti
vers le bas.
Donc, t'es militant libéral en ce moment, tu te dis « Wow, on est vraiment pris dans une situation qui n'a pas de bon sens. » Il ne peut pas s'en aller maintenant en plus avec tout ce qui est en suspens. Donc, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Bonne chance.
Bonne chance. Merci, Anto. Je te souhaite un excellent week-end parce que tu es avec nous du lundi au jeudi. Tu as fait un petit peu de temps supplémentaire pour parler avec Paul Saint-Pierre Plamondon. On se reparle lundi. Passe un beau week-end. On t'écoute à RDI demain 2h, c'est bien ça?
Exactement.
Comme toujours, à chaque vendredi. Merci beaucoup. Bye. Salut, passe un beau week-end. On s'en va de ce pas rejoindre Gabriel Giga qui est avec nous en studio. Comment ça va, mon chum?
Ça va bien.
Good, excellent. Donc, passage tout à l'heure à la commission pour le projet de loi 3. Qu'est-ce que l'Institut économique de Montréal, ça va faire là?
Ben, on s'en va présenter notre position essentiellement. On parle notamment de la cotisation facultative, là, qui est le point central, j'ai envie de dire, ou l'un des points centraux, très certainement, du projet de loi. On l'a vu là, mm-hmm. récemment, les grandes déclarations dans les médias, notamment le fait qu'on ne devrait pas inviter l'IEDM, on ne devrait pas inviter certaines parties prenantes de la société civile.
Vous êtes des méchants de droite, Gabriel, des méchants. Ben, Pascal, il y a ça. Yeah, je m'installe à gauche.
En réalité, quand on regarde la liste des personnes qui sont là, c'est des syndicats, oups, l'Institut des syndicats. Donc, on comprend que ça prend de la pluralité. Ce qu'on vient dire ici, c'est que ce projet de loi-là qui est déposé par le ministre Jean Boulet, ben, c'est une bonne chose, ça va dans la bonne direction parce qu'on vient redonner des droits aux travailleurs. Ce qu'on leur dit essentiellement, c'est là, les syndicats commencent à prendre des positions militantes, politiques, puis vous n'êtes pas d'accord avec ça. On n'est plus dans la négociation de conventions collectives, tout ça. Donc, ça vient faire en sorte qu'il y a des prises de position sur le climat, sur qui voter. Hein? Votez pas Pierre Poilievre, ça a l'air selon les syndicats. Sur Gaza, Palestine, Israël. Bref, on sort vraiment du champ d'action de base des syndicats. Puis les gens sont pas toujours d'accord. Les travailleurs syndiqués sont loin d'être toujours d'accord. Là.
Ben, en effet, 418-971-1021, puis je parle aux syndiqués et on va recevoir des textos encore une fois de la même façon. Mais êtes-vous d'accord avec le fait que les syndicats utilisent de vos cotisations pour faire du militantisme politique? Et là, quand je parle de militantisme politique, les syndicats se sont accordés avec Québec solidaire dernièrement dans la grève à la STM. Donc êtes-vous d'accord avec ça, 418-971-1021?
Puis ça, c'est problématique parce que dans le projet de loi, non seulement on redonne du pouvoir aux travailleurs, donc c'est un peu particulier parce qu'on dit maintenant, quand vous n'êtes pas d'accord, il va y avoir une cotisation facultative qui est une bonne chose parce que vous dites aux travailleurs, là, vous allez choisir pour vous autres. Évidemment, la mécanique n'est pas très intéressante parce que c'est un vote à 50% plus 1. Fait que t'es en train de dire que ton collègue va choisir pour toi si t'envoies ton argent plutôt que simplement casser la formule N qui aujourd'hui oblige tout le monde à envoyer son argent puis se dire, ben moi, je suis pas d'accord avec les prises de position politiques de mon syndicat qui n'ont pas rapport avec mes négociations de convention collective, je l'enverrai pas mon argent. Maintenant, on nous explique qu'on va faire le chaos, qu'on va mettre le Québec, là, ça va être la folie absolue, comme on l'a entendu dans les commissions parlementaires par la présidente de la FTQ. Puis ça, quand on entend ça, on se dit comment c'est possible d'avoir la chance d'être invité, de traiter le ministre d'innocent, parce que j'ai jamais entendu ça, de dire des paroles. Vraiment, c'est là qu'on voit la prime à l'idéologie syndicale.
Est-ce que tu as l'impression que rien n'avance finalement? Parce que souvent, un syndicat est réputé pour parler, presque nous endormir pour finalement avoir aucune avancée. Ça prend du temps, les portes sont closes. Là, tu te ramassais finalement avec une tonne de syndicats autour de toi. Avais-tu l'impression de perdre ton temps?
Bien, ça va être cet après-midi, c'est ça. Là, c'est ça qui va être intéressant. Cet après-midi, j'espère que non, parce qu'autour de la table, c'est des députés, c'est la Coalition Avenir Québec essentiellement qui a déposé ce projet de loi-là. J'espère sincèrement qu'on va pouvoir avancer dans la discussion, s'assurer également qu'on l'adopte, ce projet de loi-là. Parce que c'est banal, mais on voit dans les médias que le ministre ouvre la porte à des modifications. Après avoir entendu le show de boucan des syndicats, ça va peut-être pas dans le bon sens. Faut juste s'assurer que ce soit les travailleurs qui puissent prendre la décision. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on nous vend avec ce projet de loi-là de la part des syndicats, c'est qu'essentiellement, c'est une attaque aux syndicats, donc aux travailleurs. Mais quand on prend le temps de réfléchir, c'est simplement de redonner du pouvoir aux travailleurs. Fait que comment donner du pouvoir aux travailleurs, c'est l'attaquer. Ça fait aucun sens logique. Pourtant, je pense que c'est très clair qu'on a besoin de ce projet de loi-là. Peu importe les menaces, peu importe le show de boucan qu'on voit dans l'espace public, gardons la tête froide parce qu'il y a des sondages à la population. Tu sais, qu'est-ce que les Québécois pensent de ça concrètement? Mm-hmm. Ben, c'est assez clair. Peu importe ce que M. le Duc de Québec solidaire pense, là, la réalité, c'est que 54% des Québécois sont défavorables envers les syndicats. Fait que les gens, les Québécois, sont pas derrière les syndicats.
Et pourtant, on est une bonne proportion de la population qui est syndiquée.
Exactement. Donc, mais c'est sûr que par contre, la proportion syndiquée, c'est toujours intéressant. Quand on gratte, on voit que c'est pratiquement 80 % du public puis 20 % du privé.
Oui, en effet.
On s'entend, mais effectivement, en réalité, il y a une déconnexion entre les syndicats et les travailleurs. Puis ça, c'est le point central. C'est-à-dire que la raison pour laquelle les syndicats nous expliquent que de redonner du pouvoir dans les mains des travailleurs, c'est s'attaquer aux syndicats, c'est qu'ils savent qu'ils sont en déconnexion avec leur base lorsqu'ils font du militantisme idéologique. Parce que les travailleurs ne voudront pas les appuyer. En sachant ça, on ne veut pas perdre nos chasses gardées, notre financement d'1,5 milliard. Hein. Legault l'a dit, le premier ministre Legault l'a dit avec son discours d'ouverture. Bref, c'est beaucoup d'argent, c'est 1000 piastres par personne parfois. Je pense que c'est un minimum de respecter les travailleurs syndiqués.
On a plusieurs témoignages par texto. Hey, je paye 65 piastres par paye de syndicat, puis non, je ne suis pas d'accord. Également un bon témoignage ici, puis je veux t'entendre là-dessus, Gabriel, parce que ça fait partie de l'argumentaire syndical de dire « Ouais, mais là, on fait un projet de loi sur des anecdotes de Dubaï, puis de whisky, puis de pick-up, parce que c'est ce que la personne nous écrit. Ben oui, le monde a de la misère à arriver, puis l'autre prend les cotisations pour aller faire des affaires de changement climatique à Dubaï. Ça se paye de l'alcool, des soupers de roi. Continuons, ça va bien aller. » Moi, pour moi, c'est pas une anecdote que Magali Picard se retrouve à Dubaï, là.
C'est loin d'être une anecdote, c'est parce que ça l'encapsule tellement le fait que les syndicats pensent qu'ils ont vocation à être un parti politique. Ça n'a aucun rapport.
Ah, j'aime ce que tu dis exactement. On pense qu'on va représenter le Québec, mais tu es un syndicat, il faut que tu représentes les travailleurs qui t'ont accordé leur confiance. Tu n'as pas à représenter le Québec, tu n'as pas à me représenter moi, toi ou Pascal.
Puis tu n'as même pas à représenter tes travailleurs syndiqués sur l'enjeu du climat.
Non, exactement.
Ça n'a aucun rapport. Fait que tu sais, c'est bien particulier. C'est vrai qu'il faudrait... En fait, c'est que le problème avec les syndicats, c'est qu'on élargit le pseudo-champ d'action légitime. Donc, ça fait en sorte qu'on me dit, ben dans le fond, il n'y a plus rien qui est facultatif parce que nous, on a vocation à se pencher sur tous les enjeux.
OK, c'est mais notre... pourquoi on a décidé de gérer ça comme ça? C'est qu'on manquait de job, finalement?
Ben
j'adore ta question.
Je pense qu'il y a peut-être eu une évolution du syndicalisme et on arrive à un point où là c'est, ça dérape complètement. Là. Quand on est rendu qu'on va mettre le Québec dans le chaos, puis t'sais, on est rendu avec la dictature puis l'extrême droite. C'est que c'est tellement risible qu'on se dit, est-ce qu'on vit sur la même
puis
planète?
Puis on perd du temps, là, et que ben les oui. partis politiques aussi perdent du temps là-dedans quand on a bien des choses à faire.
On parle des propos de Mme Picard, on parle pas de pourquoi il faut oui. avoir des amendements, mm-hmm. pourquoi faudrait pas avoir le vote à 50+1, mais plutôt dire non, c'est JF qui va choisir pour JF oui. s'il est d'accord avec sa cotisation, puis s'il n'est pas d'accord, mais qui garde son argent dans
exactement,
ses poches.
Exactement, puis le syndicat va juste avoir à être transparent, à dire hey, regardez, on a mis 500 000 piastres dans une campagne de pub pour dire au gouvernement, ça n'a pas d'allure que vous nous ayez retiré la mais prime de nuit.
Je suis certaine que si les employés, dans le fond, ceux qui cotisent à ces mm-hmm. fonds-là syndicaux, si on leur demandait, écoutez, voulez-vous encore cotiser l'an prochain, puis qu'il y avait réellement le choix, qu'il n'y avait pas les mains liées là-dedans, ils en perdraient des fonds.
Clairement.
Les groupes syndicaux, là, reverraient leur façon de faire, reverraient leurs dépenses. Un, parce qu'il y aurait vraiment moins de cotisations, mais deux, parce qu'ils devraient se poser la question fondamentale de sur quoi on travaille, finalement. Bien. Sur quoi on doit travailler pour avoir ces cotisations-là, pour que nos employés trouvent que ça vaut vraiment la peine de cotiser au syndicat.
Totalement. En ce moment, on le sait, on se met sur le cruise control, là, puis on va l'avoir l'argent de toute façon. C'est
qu'on peut bien aller à Dubaï.
Si on peut aller à Dubaï, on va l'avoir l'argent. Les employés qui sont syndiqués ne peuvent pas payer, même si c'est la petite partie facultative qui
ils
serait...
Ils ne peuvent pas, ils sont obligés de cotiser.
Ils sont obligés de cotiser.
Je trouve ça triste, c'est des gens qui peuvent pas aller à Dubaï aussi, pour la plupart. Tu sais, c'est des gens qui économisent chacune de leurs scènes puis se font un budget en conséquence de tout ce qu'ils reçoivent dans leur compte puis ils disent, eh merde, bon, c'est vrai, la cotisation syndicale. Puis qu'ils font le calcul à la fin de l'année puis qu'ils auraient pu aller à Dubaï.
Ben
eux-mêmes.
Oui. Quand on arrive à des 1000 piastres, oui. 1200 piastres dans l'année, il y a ça. Puis il y a d'autres choses dans le projet de loi qui est intéressant. On le sait, là, des fois, on fait des votes tard le soir, c'est nébuleux, ça s'étire. Ah. Là, on
hey, la même... FAE pour la grève, ça a voté à 1h45, 2h du matin. Mais c'est parce que la plupart des enseignants travaillent le lendemain. Mm-hmm. Fait que là, ils disaient, on s'en va de là. Puis là, ben c'est le petit noyau dur de 40-45 qui restait. Paf, la grève.
C'est incroyable. Mais là, au moins, ça va être un vote secret. C'est une bonne chose.
Oui.
24 heures également pour voter. C'est des choses qui font la différence. La transparence financière aussi. On parle de Mme Picard qui va à Dubaï, mais tous ces éléments-là, ces soupers-là à 2000 piastres que le monde se dit, voyons donc, c'est pris un verre de whisky à 60, 70, 80 piastres. On va demander de la transparence financière. Les syndicats appellent ça de l'ingérence. Je pense que n'importe qui a du gros bon sens appellerait ça le respect de l'argent. Des gens qui ont des travailleurs syndiqués qui n'ont pas d'autre choix que de cotiser. Ça, maintenant, ça va être de dire, ben regardez, voici le rapport financier pour ce qui est considéré facultatif. Êtes-vous d'accord ou pas? Je pense que c'est ça aussi, le respect des travailleurs syndiqués. C'est pas juste de parler des syndicats. En fait, c'est surtout, il faut arrêter de parler des syndicats. Il faut travailler, il faut parler maintenant des travailleurs syndiqués. C'est très différent, même si on essaie, au niveau des syndicats, d'entretenir une confusion mentale avec la population.
Entièrement raison. Gabriel Jugard, c'est toujours un plaisir de te parler. Je termine avec un texto qui est super intéressant aussi, par exemple, et qui montre l'autre côté de la médaille. Je crois que le gouvernement devrait aussi s'engager à ne plus utiliser notre argent pour faire des publicités partisanes. Et en effet, on l'a vu dans les négociations avec les médecins. J'adore le texto. Si jamais tu veux nous donner ton nom, ça va me faire plaisir de te nommer en ondes. Bon passage à la commission, à la commission parlementaire pour le projet de loi 03. On se reparle prochainement. Faites ça comme des champions. Je suis certain que le ministre Boulay, à l'entendre parler matin, il va tendre l'oreille à vos propositions.
On l'espère bien.
Pas mal convaincu de ça. Merci beaucoup, Gabriel. Merci. Toujours un bonheur. Puis vraiment un bonheur de te voir en studio. Pascal CV, après la pause, on fera quelques manchettes. Et également, Rémi Villemur va s'installer avec nous. Rémi a des excellents sujets, comme d'habitude. Hein? Il va toujours nous amener dans le débat aujourd'hui. Le positionnement du PQ face à Magali Picard confirme son virage à droite, selon Rémi Villemur. Et le projet de loi sur la laïcité. Citer Rémi est pour parce qu'il dit gouverner, c'est aussi prévoir. J'aime ça, ces deux sujets. On va jaser de ça. Dans l'émission, on en jase. Tombe bien, on jase de ça. C'est pas pire, hein? C'est un bon concept, hein? Qu'est-ce que ça passe? À Boulevard 101.
Jusqu'à 14h.
Ontario Odette Timbermark, entreprise familiale québécoise, est à votre service pour vos petits et grands projets de construction depuis 1946. Matériaux d'air regroupe sous un même toit tous les matériaux et articles de quincaillerie pour réaliser vos projets de rénovation et de construction. Bref, ça fait 75 ans qu'on simplifie la vie. Et là, tu es un bricoleur de fin de semaine, comme moi je le suis. Quoique, pas trop de cet insu, parce que je suis pas mal occupé à coacher au hockey, mais c'est autre chose. Durant tout le mois de décembre, on aura des promos hebdomadaires avec des quantités limitées. Donc, il faut absolument que tu restes à l'affût pour profiter des meilleurs rabais. C'est le moment idéal pour t'équiper en outillage ou dire à ton beau-père qui vient toujours faire des rénos chez vous, « Hey, là, le nouvel outil, tu viendras l'essayer dans mon sous-sol. » Pour commencer du 28 novembre au 1er décembre chez Matériaux Odette Timbermart, achetez un outil Enel et recevez un kit de démarrage, c'est-à-dire une batterie et un chargeur. C'est-tu pas beau, ça, pour un beau-père? Restez à l'affût pour profiter des meilleurs rabais. Matériaux Odette, complice de vos projets depuis 1946. Livraison flexible et rapide au matériauxodette.ca.
Saviez-vous que Porter offre un vol direct chaque jour entre l'aéroport international Jean-Lesage de Québec et le centre-ville?
Ludovica Minland, connaissez-vous? Moi, je ne connaissais pas et c'est un monde miniature encore plus grand à Québec. Depuis sa création à Québec en 2010, Ludovica Minland présente des œuvres aux quatre coins du monde depuis plus de 15 ans. Et on a ça maintenant ici, à Québec, en exposition à Laurier, Québec. On peut voir pas moins de 3000 reproductions miniatures construites par les concepteurs de l'exposition. Découvrez à Laurier, Québec, une reproduction gigantesque de la ville de Paris, Pascal Zévé. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est une destination, je vais aller à un moment donné. Elle a été utilisée pour la création d'un documentaire américain pour Universal Pictures dans le cadre d'une série télévisée « The End is Now », le plus grand en Amérique. Ludovica Minland est le plus grand parc intérieur de type Legoland en Amérique et la portée de sa collection n'égale que son ampleur. L'exposition déploie des bâtiments et monuments célèbres sous nos yeux en un panorama époustouflant que vous ne risquez pas d'oublier. Plus de 3000 bâtiments et monuments à découvrir dans un panorama époustouflant que vous n'êtes vraiment, mais vraiment pas prêt d'oublier parce que vous allez être ébahis. Seul ou en famille, prenez la route de la découverte à Laurier, Québec, ludovica.ca.
Dès maintenant, chez Pharmaprix.
Neige, pas de neige, de la pluie, du verglas, peu importe, on est en train de se préparer pour la saison hivernale. On fera pas semblant qu'on n'est pas prêt, qu'on connaît pas ça, on n'est pas né de la dernière pluie. Et il faut aller préparer son véhicule pour ces prochains mois-là. Pourquoi? Ben parce que ça va être beaucoup moins stressant, beaucoup plus agréable sur les routes. Et certainement, ça va vous amener un genre d'apaisement au volant. Pourquoi? Ben parce que votre véhicule va fonctionner. Puis en plus, il va fonctionner à peu de coûts. Parce que chez Pièces d'auto économique, on est leader au Québec pour les pièces d'auto et accessoires. accessoires. Tu n'as pas besoin d'être le pro du moteur. Tu peux être débutant dans le domaine, mais la gang est là pour te guider vers les bonnes pièces au meilleur prix. On va te demander c'est quoi ton modèle, on va te demander c'est quoi l'année, on va te demander ce que tu as besoin, puis on va aller patauger dans les 20 marques de pneus, d'essuie-glaces, de batteries, d'alternateurs et encore plus pour que tu sois prêt pour l'entretien de ton véhicule. C'est du vrai bon service donné par du vrai bon monde d'ici qui travaille corps et âme pour aller chercher les meilleurs produits. Puis en plus, on a décidé pendant le mois de novembre, on est le 27, donc dans les prochains jours, ça va finir cette promotion-là, d'aller chercher 10 % de rabais supplémentaires sur les disques de freins de première qualité Brake Max. Ça, c'est à fort teneur en carbone. Ça freine vraiment plus en douceur. Tu as un 10 % de rabais aussi sur les plaquettes de freins Bosch, puis 10 % sur les batteries de marque maison, pièces auto-économiques. Tu as 20 % de rabais aussi sur les essuie-glaces. Ça, là, change-les tes essuie-glaces. Je te jure que tu vas avoir l'impression que tu n'avais pas besoin de lunettes. Finalement, tu as des lunettes, puis ça fait tout le changement. Change tes essuie-glaces et prends celle de marque Rain-X. Tu as 20 % de rabais là-dessus. C'est parfait pour affronter la neige. Profites-en. Mais dépêche-toi, par exemple, parce que ça, c'est les rabais de novembre. C'est maintenant. Déjà, chez Pièces Auto Économiques, on a des grandes marques, des pièces neuves garanties au meilleur prix. Puis on ajoute ce pourcentage de rabais-là sur tous les éléments que je viens de te parler. Maintenant, 9 magasins au Québec, 5 centres de distribution. Puis en plus, ben, il y a un site transactionnel, pièceséconomique.com.
Les Forts de Lévis électrisent le mois de novembre.
Il est précisément 13h11. Vous le savez, meilleur moyen de nous écouter, blvd.fm, c'est la web radio. L'application Boulevard sur Google Play Store, Apple Play Store, twitch.tv/blvd/fm. En passant, là, on a reçu un texto tantôt. Hein. Tu sais, quand on se fait des signaux bizarres, là, c'est nos signaux de radio. « Hey, toi, c'est à toi de parler. »
Ouais.
C'est vrai qu'on doit avoir l'air sans dessin en caméra des fois.
Parce que sur Twitch, on n'a jamais pensé que quand on est en entrevue, entre autres avec un politicien, c'est moi, ça. Des fois, je fais un genre de signe qui veut dire tout petit
oh.
Mais peut-être que pendant que Paul Saint-Pierre Plamondon parle puis que je fais ce signe-là qui pour nous veut dire hey, j'ai un léger ajout à faire sur le même sujet, on se comprend là, nous autres on a des petits signes qui ça a peut-être l'air de très réducteur.
Puis moi je le sais que quand je vous pointe pour donner la parole, je le fais de façon un peu cocasse là, exactement.
Alors,
c'est mon passé d'animateur, faites-vous en pas, on respecte nos politiciens à la grandeur, d'ailleurs, vous le sentez dans les entrevues qu'on fait avec eux. Et il y a le fameux parleur intelligent, Pascal, c'est BLVD qu'il faut dire. Hein?
Exact.
Yes! Pascal, avant qu'on passe à Rémi Villemur, qui a deux excellents sujets, dont le PQ virage à droite et la laïcité gouvernée, c'est prévoir. Qu'est-ce qu'on retient dans l'actualité?
Dans un instant, je vais vous parler de ce qui peut vous arriver si vous aidez à conduire un véhicule dans lequel il y a une personne en état d'ébriété derrière le volant. Mais
quelle
avant...
histoire.
Je vous parle effectivement, un petit clin d'œil à la crise au PLQ. Là, c'est Marois Risky qui aurait décidé de convoquer l'UPAC. C'est ce que pense Pablo Rodriguez. On en reparle dans un instant, mais c'est vraiment la crise qui ronge le Parti libéral du Québec qui, chaque jour, ajoute un épisode. Digne non plus des Feux de l'amour, mais bien de Game of Thrones. Je change mon discours maintenant. Alors, depuis le congédiement de la directrice de cabinet, c'est une épine par jour qu'on ajoute au dossier. Celle-ci est quand même assez pointue. Bureau d'enquête qui révélait aujourd'hui que l'UPAC a rencontré la députée Marois Risky. Après le directeur général des élections, le corps policier se penche désormais sur des allégations de fling-flang qui entourent le Parti libéral du Québec. Et donc, tous les partis d'opposition sont bien heureux d'aller brandir les anciens livres sur la corruption au sein du parti et de ramener les mots qui sont durs, qui sont forts et qui déplorent comment ça s'est passé dans les dernières années dans ce parti-là qui a perdu beaucoup de plumes suite justement à ces fiascos-là. Le vérificateur général écorche l'utilisation de cartes de crédit par les fonctionnaires. En fait, c'est ce qu'on dit parce qu'on critique sévèrement la gestion des cartes de crédit qui sont dans la fonction publique québécoise très utilisées. Notamment, on dit il y a un manque de contrôle, de surveillance et il y a un manque de justification des achats. Êtes-vous surpris? À vous de répondre aux 88 de 7101.
Mais ça, justification, ça m'agace, là.
Mais pour l'année 2024-2025, les 153 ministères et organismes ont réalisé pour près de 100 millions de dollars d'achats là, par carte de crédit. Mm-hmm. Et on demande à ce qu'on puisse témoigner de ça servait à quoi, c'est pourquoi... Est-ce que c'était nécessaire? Puis on manque de suivi. Alors, c'est un dossier très intéressant en termes d'articles dans les articles de Radio-Canada. Robert Mercure démissionne de Destination Québec Cité. C'est officiel. On a remis sa démission comme directeur général. Et ça, c'est après s'être retrouvé dans la tourmente cet été concernant des dépenses douteuses. C'est un peu la thématique hein, aujourd'hui.
Oui, vraiment.
La Ville de Québec a confirmé les informations d'abord qui avaient été révélées par le Journal de Québec qui concernaient la tête dirigeante, le départ de Robert Mercure. candidature va être officialisée à la fin de l'avant-midi. Et pour le maire de Québec, Bruno Marchand, il avait dit qu'on a sommé l'organisme de rembourser les dépenses injustifiées après qu'on a eu les révélations. Près de 2000 factures ont été analysées par la Ville de Québec. On avait repéré 76 incongruités et ça fait l'objet d'une enquête plus approfondie. Et je reviens à cette nouvelle-là. Si jamais vous êtes quelqu'un qui avait envie d'aider, et je ne comprends pas pourquoi, mais quand même, un conducteur en état d'ébriété à conduire son véhicule. Sachez qu'il y a un citoyen de Saint-Ursule qui est accusé, justement, de ça, d'avoir aidé une femme de Saint-Béatrix à conduire son véhicule en 2022. Notamment, il a soufflé dans l'antidémarreur et ça a permis à la femme de 33 ans de prendre la route, mais pour la dernière fois de sa vie. Donc, la voiture a fait une embardée quelques instants après et ça a coûté la vie à celle dont le taux d'alcool était plus de deux fois supérieur à la limite permise. Jean Lessard, 67 ans. Il a comparu ce matin au palais de justice de Trois-Rivières. Il était absent, par contre, mais il était représenté par son avocate. Et l'accident mortel, c'était sur la rue Saint-Didas, dans la Nodière. D'après le rapport du coroner, l'examen de l'antidémarreur dans la voiture a démontré que c'est vraiment quelqu'un qui n'avait pas pris d'alcool, qui avait soufflé dedans. S'en est suivi une enquête. Et voilà que cet homme-là est rendu au palais de justice. Et on rappelle que c'est criminel. Selon la dénonciation au dossier, Lessard est accusé de négligence criminel ayant causé la mort de cette femme-là en soufflant à sa place dans l'antidémarreur. Et ça démontre donc une insouciance déréglée ou téméraire à l'égard de la vie ou la sécurité de celle-ci.
Quelle histoire abracadabrante. Ne faites jamais ça, ne donnez jamais l'opportunité à quelqu'un en état d'ébriété de conduire son véhicule. Au sport, Pascal, c'est 3-0 Packers de Green Bay. Ils viennent de marquer un botté de placement à leur première possession offensive. Chiefs de Kansas City contre Cowboys de Dallas, 16h30. Les Packers affrontent les Lions présentement à Détroit. Et ce soir, c'est le retour de l'enfant prodigue, Joe Burrow, le préféré de Pascal CV avec les Bengals contre les Ravens à Baltimore. C'est à 20h15, le match. On s'en va rejoindre l'excellent animateur du 99.5 Montréal, Rémi Villemur, de ce pas. Rémi, comment vas-tu?
Ah, ça va très bien, vous deux.
Ah, ça va super bien. Rémi, on aime toujours ça de parler parce qu'on a toujours des débats, on a toujours des discussions intéressantes. Et là, explique-moi ça. Toi, tu vois, dans la déclaration d'Alex Boissonneau, et d'ailleurs, j'ai terminé notre entrevue avec Paul Saint-Pierre Plamondon en disant « Vous féliciterez Alex Boissonneau pour son excellente sortie contre Magali Picard. » Tu vois un virage à droite du PQ parce qu'Alex Boissonneau se dit « Wow, 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 Magali Picard, tu vas arrêter de traiter le ministre d'innocent. »
Ben, c'est-à-dire que ça fait longtemps que sur le plan économique, il y a quelque chose comme un semblant de virage à droite qui est entrepris par le PQ. Je rappelle que dans la dernière année, à un moment donné, on a posé la question à Paul Saint-Pierre Plamondon, dans un Québec souverain, est-ce qu'on engage tous les fonctionnaires fédéraux dans la fonction publique québécoise? Puis il avait répondu, écoutez, je veux dire, de la façon que nous, on entend faire un premier mandat dans un Québec souverain, on pense que la bureaucratie qu'on dénonce au fédéral, il ne faudrait quand même pas la reproduire dans un Québec souverain. Donc, il venait de dire finalement qu'il y aurait une refonte de l'État. Donc, à ce moment-là, il fallait porter attention, il fallait être au moins se mettre à être vigilant si on est inquiet de ça. T'sais. Mais ça s'appelle un virage à droite, oui. Après, il faut aussi noter une chose. Là. Le Parti québécois, qui a historiquement été, lorsqu'il était dans l'opposition, un parti pro-syndicat, qui réfléchissait aux politiques en se fiant beaucoup à l'État, enfin, des programmes sociaux. Bon, il s'approche du pouvoir. Le Parti québécois, depuis deux ans, trône premier dans les sondages, c'est un gouvernement en attente. Donc, s'il prend la position qu'il prend avec les syndicats, c'est parce qu'il sait que dans un an, normalement, si la tendance se maintient, il va former le prochain gouvernement.
Ça donne rien. Là, c'est lui qui va livrer la bataille contre eux autres.
Oui, tout à fait. Donc, c'est aussi pour ça qu'il prend les positions, le Parti québécois, qu'il prend en ce moment. Faut pas forcément se dire droite, gauche, c'est plus ça. N'importe quel gouvernement en attente qui voit le ton qui est utilisé par Magali Picard, les revendications des syndicats, et là, on entre dans une phase, c'est redondant à l'échelle de l'histoire, ça arrive tout le temps, il y a une déconnexion là, de la part des syndicats par rapport à la capacité de payer des Québécois. Donc, un gouvernement en attente, et ça dépasse la question de la gauche puis la droite, doit prendre la position difficile qui consiste à dire, bon, vous ne pourrez pas avoir tout ça. Et il faut changer le ton également.
Ça se demandait si... on se demande pas vraiment. Là, mon père énormément de temps, en fait, dans toute cette saga-là actuellement, quand c'est un problème qui se réglerait à laisser les gens choisir s'ils cotisent ou pas à leur syndicat. Puis à partir de ce moment-là, probablement qu'il y aurait l'étude de ce qu'on fait avec l'argent, puis il n'y aurait plus de voyage à Dubaï. Est-ce que tu penses que ce serait la solution, toi?
Bien, laisser les gens, ouais, ben laisser les gens payer, non, parce qu'un syndicat, c'est un syndicat. Je veux dire, il y a une partie de la cotisation qui ne doit pas être facultative. Là. Je pense que ça, sinon, on réforme complètement ce que c'est qu'un syndicat, puis là, c'est pas un petit détail, là. C'est une grande...
Mais tu crois pas qu'ils devraient choisir s'ils font partie de ce syndicat-là, s'ils adhèrent au syndicat ou pas en tant qu'employé?
Ah ben oui, oui, mais ça c'est déjà le cas. Je veux dire, c'est-à-dire que si la majorité des employés étaient contre la syndicalisation, ils pourraient ne plus l'être, ils pourraient s'arranger.
Mais individuellement, toi, tu le vois pas comme étant un droit personnel, là, qui devrait devenir un droit personnel. C'est encore un effet de gang.
Non, moi, je pense que c'est bien fait comme ça. C'est-à-dire qu'un syndicat, c'est un syndicat, vous avez la loi du nombre. Si vous êtes majoritaire à vouloir rester dans le syndicat, ben, il faut accepter la décision de la majorité. Par contre, l'idée des cotisations facultatives, je trouve pas ça fou, là. Je veux dire, les syndicats se défendent en disant, ouais, mais vous savez, c'est rien que 1 à 5 %. C'est 1 à 5 % de trop. Regardez, la FAE en ce moment débourse des centaines de milliers de dollars pour se battre contre la loi 21. Fait que le 1 à 5 % dont ils parlent, ça leur donne quand même des centaines de milliers de dollars dans leur coffre pour se battre contre une loi que ne dénonce pas la majorité de leurs membres dans les derniers sondages qui ont été menés à l'interne. Donc ça, moi, j'ai un problème avec ça. Quand il y a une partie des cotisations qui est utilisée pour mener des batailles politiques, des batailles idéologiques, mais je ne suis pas anti-syndicat. Je ne pense pas que les syndicats n'ont pas lieu d'être. Je ne pense pas que parce que vous n'êtes pas d'accord avec votre syndicat, vous pourriez vous en dégager. Hein? Il y a encore quelque chose comme un groupe. Vous vous inscrivez dans un groupe, puis la majorité le triomphe. Donc, moi, je pense que les choses ne sont pas si mal faites que ça. Là. Il y a eu des abus. C'est ça qu'il faut dénoncer.
Et c'est les abus qu'on veut gérer. Tu viens de parler de la laïcité, Rémi, puis ça m'amène sur ton deuxième sujet, qui est le projet de loi sur la laïcité. « Gouverner, c'est prévoir » que tu m'écris. Et j'adore ça. Parce que, justement, on a des exemples frappants ailleurs dans le monde. On a juste à penser en France, où il y a eu des débordements par rapport à la religion. Moi, je suis pour un État laïque. T'sais, je vais même jusqu'à affirmer, moi, à croix sur le Mont-Royal, enlève-moi ça, puis mets-moi quelque chose d'autre, parce qu'on est un État laïque. Cela dit, on va pouvoir enseigner dans l'histoire que ça a déjà passé par la religion ici au Québec. Mais je suis d'accord avec toi. Je veux qu'on prévienne le pire et je pense que la CAQ agit au bon moment.
Bon, moi, concernant la Croix du Mont-Royal, je te dis tout de suite, je veux qu'elle reste là et qu'elle soit ici bien haut. C'est pour... Aujourd'hui, elle n'a pas le sens qu'on lui prête. Hein? C'est-à-dire, à ce moment-là, il faudra enlever les mosquées, il faudra enlever les synagogues, il faudra enlever les églises. T'sais, la laïcité, ce n'est pas d'enlever tous les symboles religieux dans l'espace public. C'est lorsque le gouvernement est associé à un symbole religieux, ne serait-ce que par ses employés ou par ses communications. Mais sur la question de gouverner, c'est prévoir. Les Québécois sont très particuliers parce qu'ils forment un peuple qui a défié tous les pronostics à l'échelle de l'histoire. On pensait qu'on ne parlerait plus français lorsqu'il y a eu la conquête britannique 300 ans plus tard. Aujourd'hui, on parle français. Aujourd'hui, on se bat pour le français. Aujourd'hui, on est encore là. Mais le danger, lorsqu'on accomplit quelque chose d'imprévisible et qu'on réussit à accomplir des exploits, c'est qu'on se croit invincible, d'une part.
Hey, j'aime ça.
Non, mais c'est vrai. Quand vous réussissez à accomplir ce que personne à peu près a réussi à accomplir, c'est ce que les Québécois ont fait, hein, en résistant comme un village de Gaulois au milieu de la marée anglophone, ben, vous pensez que vous êtes invincible. Puis il y a un autre danger qui vous guette, c'est que vous pensez que les grandes trajectoires de l'histoire, les grandes dynamiques de l'histoire, elles vont vous épargner. Donc, des fois, les Québécois, ils se disent entre eux, ben non, on le sait qu'en France, ils sont pognés avec des problèmes, mais on sera pas pognés avec les mêmes problèmes. Là, tu te dis, c'est drôle parce que ces mêmes gens-là qui disent ça pour se battre contre les projets de loi de la laïcité nous disent aussi que ce qui se passe aux États-Unis va monter. Hein? Souvent, il y a une gauche qui dit ça. Non, mais c'est vrai. La gauche nous dit, une certaine gauche, nous dit, regardez...
Attends une minute, Rémi, es-tu en train de me dire que MAGA peut traverser la frontière, mais pas l'islamiste radical?
Bon, alors je ne sais pas si c'est une question d'océan entre les deux qui ne faciliterait pas le voyage de ce qui se passe. Mais moi, j'entends ce discours-là souvent.
T'as raison.
J'ai toujours envie de dire non, tout peut traverser partout. D'accord? Je ne dis pas que tout traverse partout. Mais ce qui se passe en France, avec une population issue de l'immigration qui a un profil démographique semblable au mien, au nôtre, aussi, ben ça peut se produire ici. Alors, gouverner, c'est prévoir. Parce qu'aujourd'hui, Jean-François Robert, je vais se le faire reprocher. Il va se faire dire, mais pourquoi vous interdisez des signes religieux qu'on n'observe pas de façon importante dans les espaces publics?
Parce que ça va arriver.
Ben, c'est ça, le travail d'un gouvernement puis le travail de nos élus. On fait la même chose en amitié, on fait la même chose en amour, on prévoit parfois le pire. On se prépare pour être mieux organisé, à faire face aux choses lorsqu'elles se présentent. Ben, il faut faire la même chose en politique. On demande ça à nos élus. On demande à nos élus de gérer le quotidien, l'actualité, et aussi d'être un peu plus allumés que nous, qui n'avons pas le temps et l'attention nécessaire pour faire ça au quotidien. On a nos vies à mener, mais ces gens-là, leur travail, c'est de nous préparer à ce qui s'en vient.
Puis Rémi, je vais lancer des fleurs à la CAQ et surtout à Jean-François Roberge. Et by the way, on va l'avoir en entrevue à Marceau le matin, demain matin, 8h45. Je trouve qu'il l'a fait de façon structurée, je m'explique. Parce que quand on dit prévoir, c'est aussi travailler avec les gens qui vont arriver dans notre pays, dans notre province. Et Jean-François Roberge, l'an passé au printemps, a modifié la loi pour l'accueil des personnes immigrantes. Donc, le fait qu'on va leur enseigner nos valeurs, le fait qu'on va accélérer la francisation. Alors, je trouve que les choses sont faites dans le bon ordre, dans le sens que on va accueillir les gens, on va leur expliquer qui on est comme peuple. Les gens vont pouvoir s'intégrer et s'intégrer à l'intérieur de ça, bien, c'est ne pas avoir de signes religieux dans l'espace public.
Bien, c'était que moi, je dirais les choses à peu près comme tu viens de les dire, c'est-à-dire on va leur expliquer qui on est. Et si ce n'est pas clair, bien, on a des gens que j'ai vu passer un extrait sur les réseaux sociaux dans les dernières heures. C'était deux femmes de confession musulmane qui répondaient à un journaliste, je pense un journaliste de TVA, puis elle disait « Nous, on nous a accueillis ici, donc ça veut dire que vous devez accepter, et là, je la cite, nos envies, nos valeurs, nos principes, nos pratiques. » Là, tu dis « Ah, bien, d'abord, on n'avait pas été assez clair. On va l'être davantage parce que non, en fait, il y a des affaires qu'on n'accepte pas. » Et tu sais, à un moment donné, cette question-là est exagérément théorique. La vérité, là, c'est que la grande, l'imposante, devrais-je dire, majorité des gens ressent un malaise quand ils voient des femmes qui sont voilées jusqu'ici.
On voit juste les yeux.
On le ressent, là, 99 % des gens, j'exagère peut-être un peu, 90% des gens ressentent un énorme malaise quand ils voient ça. Pourquoi ils ressentent un malaise? Parce que ça ne leur tente pas de voir ça. On peut politiquement agir, c'est ce qu'on fait.
Oui, je suis clairement d'accord avec toi. Je pense que c'est un très bon point de la CAQ que cette loi sur la laïcité, sa façon de faire et ce que le ministre Roberge a annoncé aujourd'hui. Il n'y a pas de doute dans mon esprit. Maintenant, est-ce que tu penses que avec le PQ, et je termine là-dessus, ça se poursuivrait si le PQ prend le pouvoir, cette démarche-là?
Oui, tout à fait. Ben, ils l'ont dit de toute manière. Mm-hmm. Ils l'ont dit, vous ne nous trouverez pas sur votre chemin si vous parlez de laïcité. Peut-être le PQ sera-t-il tenté d'aller plus loin? Parce que je rappelle quand même...
Il y en avait parlé chez les enfants.
Oui, ben, en France, oui, on va plus loin. En France, il y a... Parce que regardez, au dernier conseil des jeunes de la CAQ, je ne sais pas si vous avez abordé ça à votre émission, mais les membres ont voté à majorité, mais c'était une majorité assez serrée, une motion... Qui proposait au gouvernement d'aller plus loin. Et Jean-François Roberge était pour cette motion-là. Et qu'est-ce que disait cette motion-là? C'est qu'il faudrait interdire, par exemple, le port du voile intégral en public. Donc, si vous marchez sur la rue et qu'on ne voit que vos yeux, ça devrait être interdit. La police pourrait intervenir et vous dire, « Madame, je regrette, mais il va falloir retourner chez vous vous habiller. » Parce que là, ça ne marche pas. Là. On ne vit pas comme ça ici. Donc, les membres étaient prêts. Et les membres, ce sont souvent des jeunes. Là, hein?
Mm-hmm. Très, très jeunes. En effet.
Donc, ça pousse cette volonté-là. Le PQ arrive au pouvoir normalement dans un an. Il va devoir prendre acte et prendre conscience de cette volonté-là qui pousse, y compris chez les jeunes.
En effet. Rémi Villemur, toujours un plaisir de te jaser. On peut t'entendre au 99.5 Montréal du lundi au jeudi de 18h à 19h et le samedi matin de 8h à 10h. Et avec nous à chaque mardi et jeudi. Je te souhaite une bonne émission ce soir, un excellent week-end. On se reparle mardi.
À mardi prochain, les amis. Bye.
Yes, salut Rémi. Alors, Rémi Villemur, toujours très intéressant avec qui discuter. Il y a des excellents points de vue.
C'est tellement sensible comme sujet.
Ben oui!
Tu as envie d'être dans l'inclusion parce que plus tu côtoies des gens qui sont différents de toi avec une autre culture, tu te rends compte à quel point c'est riche, hein, cet échange de culture-là dans toutes les sphères, dans la façon de travailler. Tu sais, tu peux prendre en commun tout ce qu'on a, regarder le positif, mm-hmm. regarder le négatif. Tu as eu des points extraordinaires. Tu sais, allons-y à sa plus simple expression, là. La plus positive de toutes, je pense que c'est l'échange gourmand entre les pays, entre
oui,
les cultures.
Bien sûr.
Maintenant, tu peux tellement bien manger au Québec. Avant, il fallait que tu voyages, tu as
ouais.
des sous pour aller ailleurs, pour bien manger
T'as
comme ça.
T'as entièrement raison.
Ça, c'est positif, c'est un détail qui est mm-hmm. exceptionnel quand tu aimes la nourriture. Mais Cette laïcité-là, ça fait des années qu'on en parle, peu importe le parti politique qui est au pouvoir. À chaque fois que c'est hyper sensible, parce que même une personne qui se questionne, tu sais, Rémi disait, je ne connais pas beaucoup de gens qui sont pas mal à l'aise avec un voile intégral, par exemple. Bien, c'est vrai que quand tu te mets à jaser avec du monde autour de toi, pour beaucoup, l'incompréhension de pourquoi cet habit-là religieux fait donc partie de ton quotidien, bien, est à aborder. Parce que souvent, les portes sont fermées rapidement. Puis là, on prend toujours le même exemple, mais les portes sont souvent fermées rapidement quand vient le temps de parler d'inclusion. Mais il y a beaucoup de personnes immigrantes par elles-mêmes, lorsque tu leur jases, ils disent « On n'a même pas de guide quand on arrive ici. »
Exactement.
« Pour bien comprendre comment vous vivez. »
C'est pour ça que j'ai que Jean-François Roberge a fait les choses dans le bon ordre. C'est qu'il a commencé par réformer la façon d'accueillir l'immigration avant d'arriver avec ce projet de loi-là sur la laïcité.
Ça crée plein de coltaillages. Rappelle-toi, j'avais fait une entrevue avec un homme qui arrivait de l'Afrique puis qui disait « Crime, moi, j'ai perdu des emplois, je me suis fait traiter de lâche et tout ça parce que dans ma culture, arriver à l'heure, ça n'existe pas.
Mm-hmm. »
On n'a pas arrivé à l'heure, ça. Mais si on m'avait dit « Quand je te dis que tu rentres à 8, t'es mieux de rentrer
à 7,5. » À 7,5, oui.
Il dit « Je serais rentré à 7,5.
Ouais,
un jour, je l'ai compris, puis là, je tiens mon emploi. » Mais combien pensent et combien de préjugés ça a alimenté?
En effet, ça nous amène, tu sais, chaque décision qu'on prend nous amène toujours une certaine pression, nous amène à avoir des objectifs de rendement. Et ça, la CAQ se met la pression de bien accueillir les personnes immigrantes.
On espère juste au niveau du social,
ouais,
des relations interpersonnelles. C'était une autre problématique parce que nous, on a la culture du « sans oui, c'est non
mm-hmm. ».
Eux avaient la culture de « sans non, c'est oui ».
Ouais. Non, je comprends. Il y a plein d'imbroglios.
Ça l'expliquait très bien.
Ah, oui.
Puis ça, c'est une partie de l'immigration, mm-hmm, parce que chaque culture est différente. Mais c'est vrai, quand on se fait écrire, hey, « Moi, je serai toujours contre le voile, peu importe la rationalisation, tout ça. Vous allez pouvoir essayer de m'amener dans plein de sphères, mais c'est impossible pour moi de voir l'inclusion de ce geste d'oppression-là qui, pour lui, est inacceptable dans la société québécoise. Puis il faut en parler. Il faut donner du temps aussi à ça.
Merci infiniment. Vous êtes énormément à réagir par texto 418-971-1021, que ce soit quand on parle d'intégration, quand on parle de syndicats, quand on parle de PSPP, du PQ, de la souveraineté. On vous lit, on lit tous les textos et merci d'interagir en si grand nombre. Pascal, on va faire, tu vas nous présenter un dossier après la pause très important, c'est-à-dire une clinique importante, je dirais la plus grande clinique de l'Est du Québec qui va être obligée de déménager.
Oui, puis même fermer ses portes si on veut. Depuis déjà octobre, il n'y a pas de suivi qui se fait en natalité. Ça veut dire que quand une femme tombe enceinte, bien, elle n'a pas de possibilité d'avoir de suivi actuellement.
Ici, à Québec.
Dans une des cliniques qui n'a pas eu le financement du gouvernement. Est-ce que vous êtes actuellement en train de penser à votre famille? Moi, je vous dirais, ben c'est pas le temps. Pas à Québec.
Non, ça
vous allez comprendre pourquoi après la pause.
Excellent, tu vas nous présenter ça. Puis moi, je vais vous parler un petit peu du Canadien de Montréal et des Raptors de Toronto. Question de terminer la journée en beauté. Une courte pause à l'émission d'Angers sur Boulevard 102. Voyager en anglais ou en espagnol pour moins cher, ça tente à tout le monde, c'est sûr. Surtout avec le temps des fêtes qui approche. Eh bien, à la Maison Anglaise, nous offrons les seuls voyages garantis sans bagages, sans stress et sans décalage horaire. Départ à toutes les heures, 7 jours par semaine. Laissez-nous vous aider à visiter Paris avec Emma Deneu. Voyager en enfer avec R.F. Kwang. Ouais, moi, ça me tente pas trop d'aller en enfer, par exemple. Fait que j'aimerais mieux manger un sandwich avec Gordon Ramsay ou découvrir comment tout le monde dans ma famille a tué quelqu'un. Votre imagination est la seule limite. En plus, vous allez acheter local et voyager dans le monde entier dès aujourd'hui. On a des centaines de livres en magasin et des milliers de livres audio en ligne pour vous amener n'importe où. C'est facilement accessible pour le magasin, c'est à Place de la Cité. Donc, vous pouvez y aller en voiture, en bus, à vélo ou à pied. Ou faites le voyage jusqu'à la Maison Anglaise par le net à lamaisonanglaise.com et vous allez pouvoir vous munir de nos milliers de livres audio. Allez-y immédiatement consulter lamaisonanglaise.com.
Plongez dans 8 Noël qui sentira bon le matin, passez chez Sobab. Sobab sur la 3e avenue à Limoilou. Cafésobab.com.
À Boulevard 102. Jusqu'à 14h, on en jase.
Boulevard 102.1.
Avec Jeff Fortin et Pascal Cévé.
Pascal, on en parlait avant la pause. La plus grande clinique d'obstétrique de l'Est du Québec, le Centre d'obstétrique et de gynécologie de la Cité à Québec, va fermer ses portes en mars 2026. Qu'est-ce qui se passe, Pascal CV? Ça n'a pas de sens.
Quand c'est sorti la première fois dans les médias, il y a plusieurs personnes qui ont commencé à dire « Wow, wow, attends un peu, là, c'est gros, ça, c'est énorme. » Puis là, il y en a qui le reliaient au projet de loi 2 en santé. C'est pas le cas. On peut dissocier immédiatement tout ce qui se passe au niveau de cette clinique-là à directement bon le projet de loi 2, mais c'est sûr que ça ne va pas aider quoi que ce soit. Les services obstétriques qu'on avait à cette clinique-là, c'était depuis 30 ans, depuis plus de 30 ans même.
Une institution dans la capitale nationale.
Absolument. Des suivis de grossesse, entre autres, des consultations gynécologiques. Écoute, il y a eu plusieurs choses qui ont mené à cette fermeture, tiens, disons-le comme ça. Entre autres, ben, il y a des démarches qui ont été refusées pour avoir justement la subvention gouvernementale pour continuer de le faire. Puis, malheureusement, il n'y a rien d'autre autour qui se donne en termes de solutions aux femmes, aux familles qui souhaitent un suivi. Puis tu sais, une grossesse, tu sais, c'est quoi, là? T'es là-dedans pendant quelques semaines, autour de 40, t'sais, disons-le comme ça, puis tu choisis pas à quel moment t'as besoin de ton suivi, c'est maintenant. Puis ça peut être extrêmement stressant pour la première fois au sein d'une famille, pour une femme, etc. Pourquoi est-ce qu'on avait construit ce service-là il y a quelques années, qui est entre le privé et le public? Bien, c'est parce que ça débordait. Donc, c'est tout simplement parce qu'on en avait besoin. Avec le temps, il y a eu des explosions de coûts pour l'exploitation, puis un financement qui n'a jamais été revu depuis 15 ans.
Donc, on finance de la même façon de là 15 ans, mais on s'entend, les coûts d'opération augmentés.
Ont explosé.
Exactement.
Puis là, on se rend compte finalement que ce n'est pas une promesse là, ou une demande qui est digne de conteste. Alors, pourquoi on a besoin de cette ressource-là qui est hors établissement?
Effectivement, nous, on a ouvert la clinique de la Cité, le centre de la Cité, il y a environ 30 ans, parce que les espaces disponibles, même à cette époque, avec les besoins de la population à cette époque, n'étaient pas suffisants. Là, on se retrouve 30 ans plus tard avec une population qui a augmenté, avec des indices de santé de la femme qui ont diminué là, au niveau des suivis de grossesse pour plusieurs raisons, avec des demandes en gynécologie qui se sont multipliées. Et on ne nous offre rien de plus en termes de locaux ou en termes de ressources à l'hôpital pour exercer nos activités. Donc, il y a une disproportion flagrante là, dans ce qu'on peut offrir. Si la clinique était nécessaire il y a 30 ans, elle l'est d'autant plus aujourd'hui. Mais malheureusement, la volonté n'est pas de nous aider à continuer d'offrir ce service.
Celle que vous entendez, c'est Dr Vanessa Picard-Fortin, qui est obstétricienne gynécologue, qui est responsable du centre. Et c'est sûr qu'elle essaie d'attirer l'attention en ce moment. Il y a des démarches qui ont été entreprises, des impacts sur tout ce qui est local, provincial, même à titre d'urgence, on demande une intervention gouvernementale parce que sinon, ça va se détériorer.
Donc, ces patientes-là continuent de s'accumuler. Et elle commence à nous appeler en inquiète ou parfois même un petit peu en panique à l'hôpital, à venir plus souvent dans nos urgences obstétricales pour essayer d'obtenir un début de soins qu'elle ne parvienne pas à obtenir avec la première ligne. Ça, c'est l'impact le plus réel, le plus concret et le plus urgent. Parce que ces femmes-là continuent de tomber enceintes, puis leur prise en charge ne peut pas être remise à plus tard. Hein, parce que les semaines passent, puis une grossesse, c'est simplement 40 semaines. Donc, cet impact-là est vraiment ressenti déjà et ça va continuer de se détériorer.
Et c'est donc bien stressant, ça, Pascal.
Ben oui, puis ça se passe ici, là, à Québec, la situation est percutante. T'sais. On ferme officiellement le 30 mars, mais on a arrêté la prise en charge de nouveaux suivis de grossesse le 1er octobre. Ouf. Et déjà, vous entendez où on en est. C'est une situation qui est arrivée du jour au lendemain, on dirait. Mais non, c'est une situation qui est beaucoup plus complexe.
En raison là, de l'explosion des coûts d'exploitation et du fait que le financement par le ministère n'a pas été revu depuis environ 15 ans, bien, ça devient impossible pour nous de poursuivre nos activités sans obtenir là, de l'aide supplémentaire. Nous avons fait des démarches auprès du CHU de Québec duquel on relève là, tous les gynécologues de notre clinique qui travaillent au CHU de Québec. Donc, soit pour obtenir du financement ou encore pour obtenir des locaux au sein là, de l'hôpital pour pouvoir continuer de faire nos activités. Puis c'est des démarches qui nous ont été refusées. On a eu par la suite un engagement du premier ministre en chambre le 29 octobre dernier là, à l'effet qu'il allait nous trouver des locaux. compte tenu de la fin de notre bail. Mais il n'y a eu aucune suite à cette promesse-là. Puis je dois avouer que je suis fort déçue et je suis un peu étonnée de savoir qu'un premier ministre peut faire de telles promesses puis qu'on ne lui donne pas suite.
Une autre petite promesse en l'air de notre premier ministre François Legault.
Exactement. Puis pourquoi on en parle alors dans les médias puis après ça, on n'en parle plus? C'est un peu la question qu'on se pose. Est-ce que finalement, on en parlait parce que les gens étaient affolés? Le gouvernement a voulu prendre la parole puis après ça, plus rien?
Ben, je pense qu'effectivement, c'est l'obstétrique, c'est un enjeu très important. C'est une situation qui est d'elle-même urgente, puisqu'une grossesse, on peut pas se permettre de la remettre à plus tard. Donc, c'est un enjeu qui est toujours sensible pour le gouvernement et surtout pour la population. Donc, je pense que pour bien paraître, on a saisi la balle au bon, mais dans les faits, on n'est pas prêt à donner suite à ce qu'on a promis, effectivement.
C'est tellement préoccupant parce qu'on construit des organigrammes comme Santé Québec et lorsque c'est le temps de travailler sur le terrain, qu'on fait des promesses, on n'est même pas capable de les tenir, alors que c'est facile, là. Trouver des locaux, augmenter un petit peu le financement qui est stable depuis 15 ans, puis on a encore cette clinique-là. Là.
Oui, puis je vous répète, hein, c'est pas depuis le projet de loi 2 qu'on commence à s'affoler là-dessus. Ça existait bien avant, c'était bien connu avant. Le gouvernement aurait pu prendre en charge le dossier sans qu'on commence à avoir les dommages collatéraux. Et je vous répète, on commence à les avoir, puis on a arrêté les suivis. On a arrêté de prendre des suivis depuis seulement le 1er octobre et la fermeture est le 30 mars. C'est déjà criant. Les patientes s'accumulent, sont en attente. Où est-ce qu'ils peuvent aller? C'est urgent.
Pourtant, l'organisme Ma grossesse relève du gouvernement, donc j'ose espérer qu'ils le savent, mais qu'ils ne veulent pas publier cette information. Mais on sait là, qu'à l'heure actuelle, il y a plusieurs centaines de patientes dans la région de la ville de Québec qui ont de la difficulté à trouver des médecins pour suivre leur grossesse et qui sont en attente, ce qui va causer des retards pour la prise en charge de leur grossesse, alors qu'on sait que le dépistage en début de grossesse est la portion la plus importante de la prise en charge.
Eh bien oui, quand on parle de dépistage pour des maladies oui. futures ou quoi que ce soit, pour savoir est-ce que tes grossesses à risque, puis tu as besoin de poser des actions particulières.
Ben oui, puis c'est super inquiétant. Là. Pense à ça. Tu dois pas être stressé pendant ta grossesse le plus
c'est
possible.
C'est vrai, ça.
Là, des dommages collatéraux, des attentes de plusieurs mois, parfait, mais tout ce qui est non urgent devient urgent aussi.
Par ailleurs, c'est certain qu'on fait de la consultation en gynécologie spécialisée. Dans la région de la Capitale-Nationale, on a entre 6 000 et 8 000 demandes de consultation en gynécologie en attente. Et il n'est pas rare pour nous en ce moment de rencontrer des patientes qui attendent depuis près de 4 ans pour une consultation lorsque c'est des problèmes non urgents. Des problèmes qui, par ailleurs, peuvent entraîner des complications. Des questions de contraception qui sont un des déterminants de la santé de la femme qui sont pris en charge tardivement, qui augmentent les besoins d'autres services comme l'interruption de grossesse. Donc, c'est vraiment un effet boule de neige qui va se ressentir de par l'état de la situation. En n'étant pas capable non plus de voir de la gynécologie, bien, ces délais-là sont appelés à augmenter.
Hey, traite-moi d'alarmiste si tu veux, là, parce que je proviens d'un milieu défavorisé, là, mais pas capable de travailler sur des moyens de contraception, des grossesses non désirées, des avortements ou des enfants qui vont vivre dans pauvreté. C'est ça que ça crée à l'heure actuelle.
Mais absolument. Puis tu as vu tout ce qui est un engrenage qui va nous fesser d'en face. Puis en plus, avec tout le système de santé qui est rabroué en ce moment, ils n'ont pas d'autre solution. Ces patientes-là, ces familles-là n'ont pas d'autre solution. C'est engorgé partout.
L'accès aux soins est pas mal en première ligne, notamment pour la grossesse, c'est pas mal dépassé partout. Puis en deuxième ligne, pour la gynécologie, c'est la même situation pas mal dans toutes les régions du Québec, effectivement, à quelques exceptions près. Donc, il y a des problèmes d'effectifs, entre autres, en obstétrique et gynécologie. Puis, de par notre pratique qui recoupe deux spécialités en une, bien, notre temps est divisé d'emblée là, entre les deux aspects de notre pratique, ce qui fait en sorte que même les cibles là, qui sont mises de l'avant dans le projet de loi 2 ne pourront pas être atteintes parce que, contrairement à un autre spécialiste, je ne consacre pas 100% de mon temps à la gynécologie, j'en consacre seulement une partie.
Hey, ça me décourage. On s'en va où comme société si on n'est pas capable de prendre soin de nos femmes enceintes?
Puis, tu sais, pense-y, là, avec le nouveau projet de loi 2, là, il rentre en ligne de compte dans l'observation qu'on va faire pour la dernière clip. Mais quand je jasais avec docteur, en fait... Picard-Fortin, Vanessa Picard-Fortin, qui est obstétricienne et gynécologue, elle connaît ses patientes. C'est pas les plus payantes du système dans ce nouveau projet de loi-là parce que c'est des rendez-vous qui sont plus longs, c'est des rendez-vous qui sont un petit peu plus fréquents, ils ont la pastille verte, hein? C'est des gens qui ne sont pas nécessairement urgentes à rencontrer, mais malgré tout, elles sont en grossesse, donc effectivement, il faut les rencontrer. C'est presque un affront pour ces patientes-là.
Bien, effectivement, les patientes, les femmes qui tombent enceintes sont des patientes qu'on va appeler des pastilles vertes là, dans le nouveau projet de loi, qui ne sont habituellement pas, qui n'ont habituellement pas d'autres comorbidités. Donc, c'est des patientes qui demandent beaucoup de temps, mais qui ne rapportent pas en proportion. Cet enjeu-là, ça va être pour les grossesses, mais ça va être aussi pour la contraception, pour les examens gynécologiques de base. C'est des visites qui prennent plus de temps parce que c'est un sujet sensible, c'est un examen invasif, c'est une patiente qui doit prendre le temps de se changer, de se mettre en jaquette, d'être examinée. Donc, c'est sûr que c'est la première pratique qui risque d'être escamotée par les omnipraticiens pour essayer d'atteindre les cibles et d'être plus efficaces. Donc, ce projet de loi-là est un très gros affront à la santé de la femme et à tous ses déterminants. Puis, on sait là, que si on n'offre pas la contraception efficace, bien, on a plus de grossesses non désirées, ce qui a un impact sur la santé mentale, sur le fait que la femme va rester au travail. On a des grossesses plus jeunes avec des patientes qui vont cesser leur scolarité, parfois pas tout le temps, mais c'est des questions qui sont très, très bien documentées, qui ont un très, très gros impact sur l'indice de santé d'une population féminine. Et le projet de loi 2 est un très, très gros danger pour notre population.
Et c'est une clinique entièrement RAMQ.
Exactement. Dédié aux femmes qui étaient dans un milieu quand même assez défavorisé, à la limite Charlebourg et Limoilou.
Donc, entièrement, tu vois, RAMQ.
Oui, et tu vois, avec la loi 2, là, pastilles vertes à nos femmes enceintes, pastilles vertes à nos enfants. Tu te souviens, on a parlé avec Marie-Claude Roy, la présidente de l'Association des pédiatres du Québec. Donc, c'est pas payant de s'occuper des enfants, c'est pas payant de s'occuper des femmes enceintes, c'est les futures générations.
En plus, avec cette fermeture-là qui était bien avant le projet de loi 2, où est-ce qu'on s'en va? Déjà, plus de 100 patientes en attente de quelqu'un qui peuvent prendre leur suivi de grossesse actuellement dans la région de la capitale nationale à Québec.
Ça n'a aucun sens. C'est à briser le cœur. Parlant de briser le cœur, il y a tellement de familles, Pascal, qui ont besoin de paniers de Noël dans les banques alimentaires. Et il y a le Patro Rocamadour qui, malheureusement, a été victime d'un incendie au mois de septembre. Ils ont perdu jusqu'à 100 000 $ de denrées alimentaires. Alors, s'il vous plaît, allez visiter le site web du Patro Rocamadour, allez dans la section événements de blvd.fm et posez un geste concret en achetant un panier d'épicerie virtuelle au profit de la campagne Ensemble pour un Noël sans fin. Des paniers à partir de 20 $ vous sont proposés et vous pouvez même faire directement un don de 10 $. Donc, allez-y, patrorocamadour.ca ou blvd.fm. Pascal, c'est 10-0 Packers sur les Lions de Détroit.
Les Lions sont forts, par exemple, cette année. Ouais. Mais là, clairement, les Packers étaient plus forts pour le début de game.
Donc, on le répète, Packers-Lions, c'est à l'instant même 16h30, c'est Chiefs qui visitent les Cowboys. Et Joe Burrow et les Bengals vont visiter les Ravens à 20h15 ce soir. Le Canadien, on le rappelle, l'a emporté 4-3 hier sur le Kraken de Seattle. Prochain match demain, 16h, contre les Golden Knights de Vegas. Toujours un bonheur de faire de la radio avec toi, Pascal Sévin.
C'est partagé.
Le retour de Gravel qui suit avec Denis Véro et Audrey. Nous, on se parle demain à midi. Au revoir, guys.
À demain.